News.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été. L'Hôtel des Pins a 100 ans cette année et vous propose une carte et des menus à la mesure de ses très grands bonheurs.
Et oui, ici à l'Hôtel des Pins, on vous les brise menu, car c'est une carte, mais c'est également des aliments de grande qualité préparés par l'ami Whistler Joseph. Et si je me permets de telle privauté, c'est parce que c'est la dernière de la saison de bain de soleil. Donc nous allons devoir racheter des cahiers pour rentrer à la classe.
Surtout qu'ils sont mouillés là aujourd'hui.
Et puis toi, tu vas reprendre ta trousse et aller sur les bancs de l'école, mon cher Brutal. Comment vas-tu ?
Oh bah écoute, ça va bien. Moi qui fais la météo, j'ai tenté le pari d'une installation dehors et effectivement, on s'est pris une grosse drache. Donc
très
merci
bien.
Beaucoup. Et là maintenant, il ne pleut plus.
Ben non, du coup, tu fais une installation de dentiste, c'est-à-dire dedans. Et bonjour Loli.
Coucou.
Il y a un E à Loli.
Oui, il y a un E.
C'est cool. Hein.
C'est Loli.
C'est cool.
Et tu rajoutes des E toi aussi à la fin de phrase.
Non.
Non, toi tu fais des E.
Et
B.
Et B.
Oui. Ah bah voilà.
C'est mieux dit.
Ouais, c'est la dernière, tu vas prendre.
Pas du tout. Tout va très très bien. Et puis alors, nous avons quand même fait, j'ai envie de dire, œuvre très très utile, puisque nous avons une invitée. Et puis pas n'importe qui, s'il vous plaît. Bonjour, Pauline Delpech.
Bonjour à toi, Hervé, Brutal, Loli.
Pauline. Voilà.
Pauline.
Pauline, les franges des
Non, mais ça y est, les meilleures blagues sont les plus courtes. Alors donc, ma chère Pauline, sois la bienvenue. Merci beaucoup de venir essuyer les plâtres de la décompression de Radio Very Good Café.
Revenir.
Car aujourd'hui, pour cette année.
C'est vrai.
Mais tu sais, c'est un petit peu comme dans les ch'tis, quoi. En fait, tu pleures quand tu viens et tu pleures quand tu pars. Donc tu reviens.
Moi, je pleure tout le temps.
C'est un petit peu l'histoire.
Non, mais je suis très heureuse de vous accompagner pour cette dernière saison
aussi.
Mouvementée.
Exactement, elle a été très spéciale cette saison. Nous avons un public nombreux. Nous avons Bruno Juge qui sont venus avec Bruno Juge.
Voilà. Les 15 000 personnes qui sont dans le studio.
Il a même un fils avec lui, une épouse qui travaille dans le secteur et un animal à quatre pattes que certains appelleraient un chien, mais dont je ne suis pas vraiment certain en ce qui me concerne.
Il serait pas du coin, le gars ?
Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a une espèce de chose à chercher dans l'hérédité entre lui et justement le père de ce chien. On va essayer de vérifier tout cela tous ensemble. Quoi qu'il en soit, nous sommes, et là cette fois-ci je suis sérieux, de retour dans ce bel endroit donc, que l'on a célébré avant-hier. Et c'est un tel bonheur que d'avoir passé l'été dans ce cadre idyllique de l'Hôtel des Pins, que nous sommes aujourd'hui très reconnaissants. Nous allons faire une petite série de merci tout à l'heure en fin d'émission où nous serons reconnaissants envers tous les partenaires que nous avons pu avoir au fur et à mesure de cet été. Ce sont eux qui nous ont permis de vous sortir nos petites sottises quotidiennes et pour cela, on les remerciera très fort. Mais en attendant, on va avoir les nouvelles. On aura tout à l'heure de la dépêche du bassin, de la météo et tutti quanti, s'il vous plaît.
Michel.
Les bons plans de sortie, c'est Michel Capferré qui les donne. Les super glaces artisanales, le coffee shop, le bar à vin sont en incontournable. Michel Capferré, route du Ferré au canon.
C'est un peu une torture ce truc, parce qu'à chaque fois ça fait Michel ma belle. Et j'ai envie d'entendre toute la chanson derrière, mais on l'entend pas.
Ouais.
C'est dégueulasse.
Alors c'est un cover, t'as vu, et elle est très sympa la reprise aussi.
Je pense que c'est Mayra Andrade. Je pense que c'est un truc comme ça.
D'accord. Et alors d'où l'expression, tu es entre deux beaux Andrade. Un peu.
Tiens, celui-là, tu l'as pas volé, je vais t'en mettre plein aujourd'hui.
Avec plaisir, ça fait un mois que je les attends.
Ah, en même temps, c'est un bruit,
les poètes, les
c'est un bruit de 1985. En même temps, pour des blagues de 85, ça fonctionne.
Oh, et t'es gentil. Franchement, moi, je dirais plutôt des 70s. Quoi qu'il en soit, donc, nous avons quelques news à vous distiller. Pour commencer, bien sûr, à Coupana, le festival qui démarre à partir de samedi, donc demain, comme le temps passe. Eh bien, en fait, c'est sur deux jours cette fois-ci. Donc, à Coupana, ça veut dire coucher de soleil en quechua. Et effectivement, je vous le confirme, le soleil s'est couché. Ça a été donc créé en 2022, c'est la cinquième édition et on retourne donc, je le disais, au format deux jours. Et à partir de là, le 29 août, vous allez avoir un programme général de concerts, de live, de DJ sets, de scènes et de sound system alimentés à l'énergie solaire.
Oui, parce que c'est le principe du festival à Coupana.
Il était co-responsable
et toute sa sono en fait est alimentée par des panneaux solaires.
Alors même la guerre est écologique aujourd'hui puisqu'ils ont des missiles sol-air.
Bravo.
Hein ? Alors,
tiens, voilà.
Merci beaucoup. Et puis voilà, donc l'ami Adrien Sanchez est vraiment vraiment un énorme organisateur parce que à chaque fois il réussit à faire les choses merveilleusement bien.
Il dort pas lui hein.
Et puis il recrute. Il est producteur.
Ouais.
Il est également sous le nom de Pinch, compositeur et musicien.
Pinch Floyd, au départ, je crois.
Exactement. Donc, sensibilisation à l'environnement, jeux et animations en famille, parce qu'en fait, là aussi, c'est un spécial jeu en bois. Alors moi, de mon temps, un truc en bois, c'était un truc à la con. Ouais. Je veux dire, hey, il m'a raconté l'histoire en bois, c'est un plan en bois, enfin bon. Sauf que là,
aujourd'hui,
non.
C'est en carton.
Alors, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir là-bas la possibilité de jouer à tout un tas de jeux de société anciens qui sont faits avec du bois. Voilà. Donc, comme ça, au moins, quand vous perdez, vous êtes mauvais joueur, vous pouvez éclater la gueule du copain avec
le qui en bois.
Avec la reine de jeu de dames de 27 kilos. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avec des petits trucs de en plastique. Et puis, le dimanche également, il y a à partir de 16h, Pinch Prox. Donc, à la fois notre ami Adrien et son copain Proca, qui sont annoncés en DJ set, quoi. Qui seront peut-être allongés avec la veille, va-t-on savoir.
Allonge-toi, raconte-nous ton enfance.
Et donc, ils vont faire un DJ set à partir de 16h jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est samedi et dimanche, c'est à Coupana. Vous pouvez y aller. En plus, il va faire beau. Regardez, le soleil se lève. On a pris de la dernière pluie ce matin.
Il est très chouette, cet Adrien.
Il est cool. Hein. Ah, ouais. Il est industrieux. Il est toujours en train de faire un truc. Il aime travailler, en fait.
Il entreprend, il est sympa, j'aime beaucoup.
Et alors toi Pauline, puisqu'on va bien sûr passer largement de temps avec toi pendant cette émission, justement par rapport au festival, vu que tu as déjà fait plein de choses, tu es déjà intervenue dans une dans une promotion de festival.
Non, j'ai accompagné très souvent mon père dans des festivals, mais je n'ai jamais intervenu en tant que productrice ou programmatrice. D'accord. Mais j'ai accompagné des programmateurs, par exemple au Francofolie, j'ai vraiment travaillé, enfin j'ai observé, mais moi jamais ni programmation... ni production musicale.
Ça veut donc dire que tu viens toi-même d'avouer que tu étais la fille de Michel Delpech. Je ne l'avais pas dit.
Tu l'as tellement dit l'année dernière que c'est plus un secret.
On a des nouveaux auditeurs.
Oui, c'est vrai.
Bah, c'est vrai. Alors, putain, on a la fille à Michel Delpech aujourd'hui. Super, bordel. Bonjour Pauline, comment allez-vous? Nous serons très discrets, c'est promis. Et alors donc, nous allons continuer bien sûr avec les programmes du week-end. Bah, il n'y en a plus. Par contre, le week-end d'après, on a rendez-vous au forum des associations sur le parvis de la mairie de Lège. Et ça, c'est important parce qu'il y a des dizaines, des centaines d'associations sur Lège Caferet. Nous irons là-bas tendre notre petit micro pour enregistrer bien sûr la plupart d'entre eux. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tout le temps important le tissu associatif et je sais de quoi je parle. Je viens d'en créer une et donc je vous solliciterai dans pas longtemps pour adhérer à Happy qui est amoureux presque il. Et je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Mais en attendant, les associations, elles ont morflé cet été. Les sportifs n'ont pas eu leur fête de la presqu'île pour leur budget. Et puis bah, les subventions municipales qui doivent peut-être s'orienter un petit peu différemment de par les incendies vont peut-être manquer à ces fameuses associations. Donc plus que jamais, il s'agit de les considérer, de les fêter. Donc ce fameux 6 septembre. Et puis pourquoi pas, à ce moment-là, substituer l'aide personnelle ou l'investissement personnel à l'aide subventionnelle, si je puis me permettre. Voilà pour les nouvelles du jour, mon cher.
Tu as vu que hier, lors du concert qu'ont organisé Courbet...
Je n'en ai pas manqué de miettes.
Tu as vu combien ils ont récolté? Ils sont à plus d'un
million. 1 380 000. Et j'oublie les euros et les centimes.
C'est formidable. L'élan de solidarité est formidable.
Exactement. Donc 250 maisons brûlées, on peut reconstruire 3. Allez.
Voilà pour les bons plans du jour. On a bien mérité notre pause canon chez Michel Capferret. Suivez tout sur Instagram @MichelCapferret.
Il est taquin, mais non, pas du tout, parce que ça sert pas à ça. Il va y avoir bien sûr beaucoup d'autres élans de solidarité. Et là, ça va déjà permettre, tu te rends compte, tous les travaux, les fringues, les équipements qu'on va pouvoir faire. Je suis vraiment très, très mauvais esprit. Alors, nous avons parlé maintenant d'une petite séquence qui concerne la maison de la presse. Mais j'ai besoin que vous meubliez, cher ami, parce que je dois appeler Guy Reichenmann, figurez-vous.
Ah bah c'est bien, si tu me prévenais avant, comme ça.
Je l'ai oublié, je viens d'y penser juste maintenant, je suis désolé.
Vas-y, appelle. Quand je pense qu'au début de la saison, on a fait un conducteur et tout, il m'a fait un conducteur magnifique avec des couleurs.
C'était bien parti.
Ouais,
je crois qu'il y a des trucs qui sont levés.
Je crois qu'il est encore, il est toujours au fond de ma valise. On l'a absolument pas utilisé, mais bon.
Comment ça va, Lise?
Appelle toi au lieu de faire des jeux de mots.
Les coups de cœur de la presse du Ferret. Conseils de lecture, signatures, événements, tout l'été sur Very Good Cap Ferret.
Oui, donc aujourd'hui, on a Guy Reichenmann qui lui-même est très prolixe. Il est presque autant prolixe que Jeanne Fèvre-Darcier. C'est-à-dire que ce sont les deux, à mon avis, les deux écrivains qui...
Ah ouais, là. Elle sort combien de livres par an, cette dame?
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et en plus, elle fait de la littérature jeunesse, elle fait des romans policiers. Je me répète, mais c'est assez étonnant le nombre de romans policiers qu'il y a sur cette presqu'île. Est-ce que nous avons Monsieur Reichenmann
au téléphone? Nous avons Monsieur Reichenmann en direct depuis la maison de la presse du Cap Ferret, où il est en train d'exercer une belle signature. Bonjour Guy Reichenmann.
C'est un privilège, c'est un privilège.
C'est un grand privilège d'être sur la radio la plus écoutée du jour, puisque nous sommes au moins 17 à l'antenne. Comment ça va?
C'est vrai, écoute, c'est à peu près la moitié du nombre, le quart du nombre des livres que j'ai vendus aujourd'hui.
Eh ben c'est
ça
bien.
N'arrête pas, ça n'arrête
mais
pas.
Mais je m'en
comme
doute.
Comme il pleut, les gens étant avides de pluie, eh bien, ils se réunissent autour de moi, ouais, sous la bâche, et il y en a même qui se mettent dehors pour ruisseler. C'est de la folie furieuse.
T'es macroniste, oui, toi, tu aimes le ruissellement.
Et voilà, tout ce qui ruisselle, c'est... Oui. Enfin, de moins en moins, mais enfin, ça l'a été, oui.
J'en ai l'impression. Alors écoute, on est très heureux de te parler, parce que pour des raisons qui ne nous regardent pas, tu as été un peu rare cette saison, alors que généralement tu signes très régulièrement sur ce boulevard de la plage. Donc donne-nous des nouvelles, parce qu'on n'en a pas et on veut que tu en donnes à tout le monde. Est-ce que tu es en train d'écrire un nouveau roman? Qu'est-ce qui se passe?
Ainsi va la vie, disons que c'est en effet, j'ai été assez... peu présent sur la presqu'île pour des raisons en effet qui étaient bonnes mais
et ta femme a accepté que tu es une maîtresse.
Voilà, mais disons que ma femme, je m'en suis beaucoup occupé à vrai dire, et là maintenant ça va un peu mieux, voilà, donc on est revenu. Et oui, j'avais commencé un nouveau texte en effet avec le golf comme point de ralliement, du moins, comme...
D'accord, et toujours en
pivotante, on va dire. Ah, bien sûr.
Okay.
Et donc, ce texte, j'ai attaqué une quarantaine de pages, mais je vais m'y remettre, mais je suis un petit peu plus paisible dans ma tête. Voilà.
Alors, Henri III fait beaucoup mieux, parce que 40 pages, lui, c'était par semaine. Alors, donc, quoi qu'il en soit, je voulais te parler aussi, bien sûr, d'Anselme Villocq, donc ton héros récurrent, qui revient à travers de nombreux policiers, dont la première de la série, c'est le flic de papier. Et donc, cet Anselme, tu le fais évoluer à la fois dans, évidemment, des intrigues policières, qui sont généralement locales, même si cette personne est originaire d'Annecy, si mes souvenirs sont bons.
De Chambéry.
Chambéry, oui, parce qu'on a un client à l'hôtel qui est d'Annecy, pardon. Et de ce fait, Anselme Villocq, si tu veux, il est à la fois un flic, donc j'ai envie de dire un peu gratte-papier, si j'ose dire, et en même temps, il frôle tout le temps un peu le mystique, il est tout le temps un petit peu dans des dimensions qui frôlent le fantastique, quoi.
Ah oui, il frôle le mystique, l'improbable et la poésie. Donc tout ça, ça fait un bon mélange qui n'est pas détonnant, mais qui peut être étonnant.
Et il est bien sûr très très ancré sur le bassin d'Arcachon, puisqu'il est copain avec le patron d'un restaurant très célèbre de Bélisère. Il s'appuie sur un réseau local aussi parfois, ou souvent même, pour résoudre ses enquêtes. Hein.
Voilà, il ne fait que ça, il écoute les gens et avec les informations glanées de part et d'autre, eh bien, il arrive, comme il le peut, à résoudre des enquêtes, oui, de façon parfois improbable, oui. Mais c'est ce que l'on pense être improbable.
Ouais.
Mais, je veux dire, c'est toujours pareil, hein, quand je parle du paradis, qui peut me contredire?
Personne. Alors justement, c'est ça qui est intéressant avec Guy Reichenmann. Quand on te voit, tu es une sorte de gentleman, tu portes beau, tu es, pardon de le dire comme ça, parce que c'est peut-être un peu trop vite résumé, mais tu es chic, tu parles bien, on voit tout de suite que tu es une personne de qualité. Et donc, on n'imaginerait pas que tu as cette ouverture, j'ai envie de dire, vers l'incroyable, vers l'extraordinaire. Tu crois l'incroyable, toi?
Ah, tout à fait, bien sûr. Mais c'est un petit peu le ce qui donne du sel dans la vie et de l'espoir pour l'avenir. L'avenir étant sans limite. Hein. Donc, à partir de là, on peut écrire absolument ce que l'on veut. Hein. Mais après, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Mais et c'est bien de donner des ouvertures un peu infinies.
On est d'accord.
Ça permet de ne pas s'enfermer dans un carcan trop étroit, qui est souvent le carcan du roman policier, hein, où c'est toujours un petit peu pareil. Hein. On découpe, on viole, on psychopathe, et puis on ne sait pas pourquoi. Hein. Bon,
voilà. Ok, bon, enfin, c'est dommage que ça ne se passe pas ici, puisque tu dis que ça se passe à Carcan. Mais bon, c'est pas grave.
Oui,
essaye un jour d'écrire sur le bassin, quand tu signes ici,
c'est excellent.
Ce sera plus vendeur, peut-être. Alors, en plus, par contre, ce qui n'est pas bête, c'est de faire des signatures dans un village où les gens savent lire.
Pardon ?
Un village où les gens savent lire, c'est bien, c'est intéressant.
Ah oui, mais ils savent lire. Alors, la lecture, c'est un vaste débat, hein, mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui liront. C'est pas,
tu crois ?
C'est un faux débat. Je pense que oui. Il va y avoir une petite révolution. Ah. Il y a toujours des révolutions culturelles, hein, à droite ou à gauche. Hein.
En Chine.
Mais les gens continueront à lire, oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors ça, c'est un vrai débat,
inhérent,
je ne sais pas.
C'est inhérent à l'être.
Oui, le média change, mais aujourd'hui, on lit beaucoup, parce que si vous vous rendez compte, toutes les vidéos sur les réseaux sont sous-titrées. Alors les gens lisent avec des fautes, mais ils lisent.
C'est vrai.
Il y a cette fameuse IA qui va venir perturber en effet le paysage littéraire, hein, parce que donner un exemple, les 40 pages que j'ai écrites, je les file à l'IA, il me fait un bouquin de 300 pages.
Je comprends. Hein, mais d'ailleurs.
Combien vont s'en servir?
Justement, on est avec Pauline Delpech, qui est entre autres au contact du milieu artistique. Est-ce que justement il y a une influence de plus en plus importante, notamment je crois qu'il y a une plateforme américaine qui vient d'interdire toutes les chansons qui sont faites sous IA?
Ah. Je suis pas au courant de ça, mais en revanche, moi, j'ai fait un test. Je suis pas du tout au courant de ça, mais en revanche, j'ai fait un test pour mon prochain bouquin. Je lui ai filé les 50 premières pages. Ouais. Et effectivement, il m'a pondu tout un roman.
Avec ton style,
avec mon style, c'est fou. Moi, je suis trop vieille pour ça. J'ai pas envie mais je me dis que les jeunes auteurs ou ceux qui ont des velléités d'écriture vont évidemment se servir de
l'IA. C'est évident.
J'ai été très impressionnée parce que il y avait ma sensibilité, mon mode d'écriture, les dialogues étaient hyper beaux. Ça me terrifie, en même temps, ça me fascine.
Ouais. Mais oui. Mais justement, alors on a chacun notre patte, mais il doit manquer quand même quelque chose si on relit bien entre les lignes. Je veux dire, enfin moi sur ce que je fais, il y a en effet l'improbable et le surnaturel. Ouais. J'essaie de décrire. Je sais pas si l'IA pourrait le peut-être. Hein,
il avait même capté. Peut-être mieux que moi mes personnages.
Quand c'est trop beau, ça va pas quoi.
Ouais, bien sûr.
Il faut un peu de défaut.
On est bien d'accord là-dessus. Alors, on en est à combien maintenant dans la série Vlok?
340. Voilà. Mais c'est bien. On va. Non, je suis à 8, mais j'arrive 8. À 9.
Je vais arriver à
9 avec le prochain qui va traiter de golf.
C'est ce que tu disais.
C'est quand même une de mes activités.
Bien entendu, puisque tu es un ancien professionnel de golf, je le souligne. Oui. Tu as même été le premier à faire du golf indoor à Bordeaux. C'est quand même pas...
En France.
Exactement.
C'est pas à Bordeaux. Mais oui. C'est en France. Je ne sais même pas si c'est pas en Europe.
Moi, je pense que même c'est dans l'univers. Hein.
Je crois. Il y avait les Japonais quand même qui avaient monté quelque chose.
Oui,
les
Japonais, ça compte pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire, camarade? Et on est sur un Vlok qui va atteindre son 9e roman. Est-ce qu'on peut le lire dans n'importe quel ordre ou quand même c'est mieux de commencer par le film de papier?
Bien sûr. Tu sais, Maigret, tu n'es pas obligé de lire Saint-Fiacre au début. Hein.
Ouais.
C'est exactement pareil. Voilà, je ne veux pas faire...
D'accord, donc description est suffisamment faite dans chaque roman du héros pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher dans des romans précédents des éléments de personnalité.
Deux, trois pages d'introduction qui mettent les lecteurs dans le bain.
Voilà. Bon, très bien. On est très contents. Écoute, là, le temps se lève un petit peu, donc devrait à nouveau se présenter, pourquoi pas, de nombreux lecteurs pour venir te rencontrer. Puis je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, Guy, il n'a pas fait que ça, il a fait aussi un jeu de société, donc ils peuvent vous parler de golf, ils peuvent vous parler évidemment de ses romans.
C'est vrai.
Plein de choses, Guy.
Et j'ai un copain qui m'a contacté, qui a fait un jeu de poker à partir du golf. Et là, je pense qu'on va essayer de développer ça bientôt. Voilà.
Écoute, ça, on va en reparler, chérie.
En exclusivité.
Tu sais que j'aime bien ce jeu. Donc, on va en reparler clairement. Écoute, Guy, on te souhaite une excellente signature. On va te rendre, bien sûr, à ta mission première qui était de signer aujourd'hui devant la Maison de la Presse, boulevard de la Playa.
Et on t'embrasse très fort. Allez, je vous embrasse à tous. Et puis, encore bravo. Hein.
Merci à toi. Salut, Guy. Au revoir.
Maison de la Presse, boulevard de la Plage au Cap Ferret, le partenaire de l'été. Publicité.
Conciergerie Jobassin.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations. Entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. tout l'été. Bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jobassin, dites-nous ce que vous voulez et on s'occupe du reste.
Conciergerie du bassin d'Arcachon. Vous gérez beaucoup de propriétaires, beaucoup de locations et vous avez de nombreux paiements à répartir. Avec Sispay, simplifiez-vous la vie. Une fois le séjour réglé, chaque propriétaire reçoit sa part et votre commission est automatiquement versée. Plus besoin de multiplier les virements et les calculs. Caution préautorisée, encaissement sécurisé, suivi centralisé, tout est réuni sur une seule plateforme. Depuis 2011, Sispay accompagne les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs paiements. Sispay, le paiement simplifié, la gestion maîtrisée. Informations et contacts sur sispay.com.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon vous ne pouvez plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Publicité.
On est tellement bien à l'hôtel de la plage.
à l'herbe, au bord de l'eau. Pour déjeuner ou pour dîner, pour boire un verre. Des produits frais, simples. Une ambiance amicale, familiale, des sourires. L'esprit cabane au service du plaisir et des moments partagés ensemble. L'hôtel de la plage, village de l'herbe, Cap Ferret.
La Maison de la Presse, boulevard de la plage au Cap Ferret, s'est ouvert toute l'année. Librairies et journaux, éditions, événements et signatures, jeux, tabac, cigares, vin potage, fournitures, cadeaux, consommables. La Maison de la Presse du Cap Ferret offre un service complet 12 mois sur 12. Malheureusement, ils sont aimables, souriants et compétents. On n'a pas de reproches à leur faire, mais on est dessus et on finira par trouver. Maison de la Presse du Cap Ferret, boulevard de la plage, l'indispensable partenaire du village.
Chez Neneuil. Chez Neneuil, c'est une petite dégustation d'huîtres façon Sébastien de Grave. Elle est posée sur la plage de la République démocratique des Jacquets. On vous y attend avec grand plaisir. Petite dégustation traditionnelle où il fait bon vivre tous les jours, midi et soir, on continue.
Bain de soleil sur Very Good Cap Ferret, indice 50 de protection d'ennui.
Et voilà, nous sommes de retour ici à l'hôtel des Pins, dont nous fêtions le centenaire tout l'été. Et nous étions installés tels des papes dans leur palais d'Avignon, sauf que nous étions au Cap Ferret. Et puis nous sommes avec Pauline Delpech, donc, qui nous tient compagnie pour toute l'émission. Et nous venons d'être rejoints par l'ami Philippe Lefay, qui bien entendu est notre grand ami, et ce depuis longtemps, et qui vient bien régulièrement à cette antenne pour nous tenir donc amitié. Et puis Brutal et Loli sont toujours avec nous, évidemment. Alors pour cette dernière, Philippe, je suis particulièrement heureux de te présenter Pauline, qui est en fait la fille de Michel Delpech. Et que donc, je sais que tu adorais ce chanteur, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, et que d'une certaine manière, tu as toujours aimé ou privilégié aussi, quelque part, une culture populaire.
Ben, oui, d'autant que j'avais... j'ai produit sur France Inter une émission qui s'appelait 45 tours et il s'agissait de voir comment la société se reflétait au travers de la chanson populaire.
Les divorcés.
Par exemple. Ou si on parle de géopolitique, on peut avoir le petit nègre qu'on met dans le lit de la dame blanche dans les années 30. Hein, dans les chansons, et après on a Sardou qui chante Afrique à Dieu par exemple.
Hein,
donc voilà comment
Le temps béni.
Ou le temps béni, ouais.
Alors ce qui est intéressant avec Michel Delpech, c'est qu'en fait il était auteur de toutes ces musiques, tous ces textes.
Alors ben écoute, c'est magnifique, on va l'apprendre certainement dans le déroulé de l'émission. Alors je vais faire la présentation de Pauline justement, parce que l'an dernier ça s'était fait en camarade, sympa, la Very Good Mobile, on faisait un petit peu connaissance, mais cette fois-ci...
Là on rigole plus.
J'ai envie, non, bien sûr que si, on va s'amuser, on va être en pleine décontraction, mais je voudrais faire une vraie présentation, parce que Pauline Delpech, c'est absolument pas une fille d'eux. Bien au contraire, ça n'arrive qu'à la fin. Puisqu'elle est quand même écrivaine, comédienne, ancienne élue. Elle commence à écrire très très jeune. Elle a publié chez Michel Lafon une série de 3 romans policiers autour du commissaire Barnabé, Sous la neige noire, Et je brûlerai ton cœur de pierre, et Le sang des tourterelles. Elle change ensuite de registre avec Souvenance en 2013, un roman consacré à la mémoire et à la détérioration de cette mémoire. Donc c'est quand même du sérieux. Et on n'est pas que sur une jolie femme qui est une fille d'eux, je le répète. Elle a été comédienne au cinéma.
Très mauvaise comédienne. Je vais t'apprendre un scoop.
Vas-y.
J'ai le nombre de jours de tournage sur un film. J'étais avec Otieno encore.
Le record.
J'ai le record du nombre de jours de tournage dans lequel je n'apparais pas dans le film. Oui, 45 jours et on ne me voit pas. Ouais, Disco. Ouais, et on ne me voit pas une seconde dans le film.
D'accord. Elle a tourné quand même aussi dans Coursier, La Croisière, dans une série policière, Polyscientifique, RIS. RIS de Vaux, les Riz de Vaux, bien sûr. Et dans le téléfilm La Peau de Chagrin. Et donc, tu as joué aussi au théâtre, donc tu es une sacrée comédienne, tu as fait une carrière de comédienne.
Sacrée mauvaise comédienne.
Bah, peut-être, mais alors dans ce cas, tu te vends vachement bien, parce que pour tourner dans tout ça...
J'ai arrêté, parce que quand j'ai vu que 45 jours de tournage, on ne me voit pas une seconde, je me suis dit, bon, il faut que je change de métier.
Sur la première scène quand même dans Disco avec Franck Dubosc, il répète la première... Enfin, il répète pas, il commence à tourner la première scène, et au bout de la première prise... Il y a Dubosc qui se retourne et qui parle à Antoniette. Il fait, on va avoir un petit problème là, non ?
Ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Alors après, Philippe, incroyable, elle fait un virage qui paraît dingue, c'est un virage politique. En 2014, elle conduit une liste Europe Écologie Les Verts dans le 17e arrondissement de Paris. Elle obtient presque 7% des voix au premier tour et devient conseillère d'arrondissement. Voilà, rien que ça. Et puis elle rejoint ensuite Écologiste, le mouvement lancé autour de François Drugy, qui n'aime bien sûr pas les fruits de mer. C'est une logique absolument diffamatoire. Et Jean-Vincent Placé, qui lui est toujours très aimable avec le personnel, et dont elle devient secrétaire donc, de Écologiste National en 2015. Donc qu'est-ce qui te pousse vers la politique ?
Bah, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est que j'ai commencé... en fait, c'est Anne Sinclair qui m'a appelée. Elle avait lu mes livres et Anne Sinclair me demande de venir écrire pour elle dans, pour le Huffington Post. Et je dis à Anne, je suis super flattée, mais je n'ai j'ai aucune formation. Moi, j'écris sur ce qui m'inspire. Elle me dit, autour de ce qui m'inspire, elle me dit, vous avez carte blanche. Donc, j'ai commencé à écrire des portraits de ci, de là, des politiques, des industriels. Je suis partie au Kazakhstan, en Serbie, faire des portraits de gens là-bas. Et donc, j'ai commencé à avoir un réseau politique. Et un jour, et notamment Jean-Vincent Placé, et Jean-Vincent m'appelle un jour et il me dit, Pauline, c'était en novembre 2013, il me dit, Pauline, on a besoin d'une personnalité civile pour faire campagne, une tête de liste. J'étais pas encartée. J'ai fait la campagne sans être encartée. Je n'avais jamais vécu dans le 17e. C'était le seul arrondissement dans lequel je n'avais pas vécu. Évidemment, il me propulse là-bas et il me dit, t'inquiète pas, tu n'as aucune chance d'être élue. Europe que j'ai ouvert dans le 17e, tu n'as aucune chance d'être élue. J'ai été élue au premier tour.
Oui,
donc
bien.
Le soir de l'élection, je l'appelle, je lui dis, mais attends, Jean-Vincent, c'était pas du tout le deal que je sois élue. Ouais. Il dit, bah là, t'as pas le choix, t'es obligé de siéger pendant 6 ans.
Exactement. Et donc, tu l'as fait ?
Ouais. Non, j'ai dû démissionner au bout de 4 ans parce que la loi Sapin interdisait que les élus fassent du lobbying et des affaires publiques. C'est comme c'est mon métier.
Alors,
aussi.
On en parlera tout à l'heure, bien entendu. Mais enfin, voilà, on est déjà donc sur une écrivaine, on est déjà sur une comédienne, on est déjà sur une élue. On commence à avoir un CV un petit peu étoffé, mon cher Philippe Pin. C'est surprenant, ce mélange des genres.
Chapeau. Chapeau.
Ah, voilà, très bien. Chapeau. Et puis, bah, voilà qu'arrive un petit peu, je dirais aussi, le moment où on va... alors, j'aime pas trop ce mot, lobbyisme, parce qu'il est toujours chargé un petit peu de connotations très négatives. Donc, on va simplement dire que pendant ce mandat, donc, tu as travaillé également sur la lutte contre le tabagisme.
Et j'y suis
d'accord,
encore toujours.
Voilà, ça se voit, d'ailleurs, ça marche bien. Et intervient auprès de parlementaires pour faire évoluer la législation. La presse t'a alors présenté comme menant des actions de lobbying, et c'est ça qui t'amène à démissionner.
Absolument. Absolument, et okay. Puis c'est notamment aussi la loi Sapin en 2014. Non, c'était en 2000, 4 ans après, donc 2018, je crois.
Voilà, après, là, je comprends pas très bien ce que je lis, mais une société suisse, la SICPA, qui est spécialisée dans la traçabilité, ça veut dire quoi la traçabilité ?
Où est-ce que tu as trouvé ça ?
Bah, dans mon sur Internet.
Incroyable, parce que je vais te dire quelque chose. Moi, d'ailleurs, Brutal le sait, je travaille vraiment en souterrain. Et c'est, mais en fait, SICPA, c'est une multinationale suisse qui n'est pas mon client, mais avec qui je coopère parce qu'ils veulent mettre en place un système de traçabilité des produits du tabac, c'est-à-dire tracer tous les paquets de cigarettes qui sortent des usines des cigarettiers, parce qu'aujourd'hui chaque cigarette qui sort des usines est tracée par les cigarettiers eux-mêmes.
C'est par rapport à des produits chimiques ou nocifs qui seraient dans le tabac ou pas ?
C'est pour enrayer la contrebande et le commerce parallèle.
D'accord, je le comprends.
C'est 5 milliards d'euros de pertes fiscales par an en France et 25 à l'Union européenne par an.
Voilà, et donc pour en conclure avec cette présentation, parce que ça ne suffit pas, Pauline Delpech ne se résume pas qu'à ses multiples activités, elle est aussi une militante associative, elle s'est engagée pour le dépistage du cancer du sein, elle fut notamment marraine d'une campagne d'Octobre Rose, rien que ça, et elle participe aux actions de la Voix de l'Enfant. C'est quoi la Voix de l'Enfant ?
La Voix de l'Enfant, c'est une association qui protège les enfants, toute dégradation faite aux enfants, les violences. C'est une très très belle association. Et d'ailleurs, c'est Mathieu Joanne qui avait écrit et composé un single dans lequel chantait mon père et moi aussi je chantais à côté de lui.
Bah, puisque tu le cites, on va en parler un petit peu.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Alors justement, il y avait Michel, ton père, et puis Delpech que tout le monde avait l'impression de connaître. Alors est-ce qu'il y avait une différence entre les deux ?
Oh, énorme, c'était à la maison, il était dépressif.
Ah oui,
c'est un très très grand dépressif, mais
comme était, beaucoup d'artistes.
Mais dépressif, mais très très drôle. C'est fou parce que il avait un humour, un humour de dingue. Je pleurais de rire, mais en même temps, il pensait qu'il était damné.
Mmh. Ah bon ?
Oui, parce qu'un jour, il était dans sa voiture, il était place de l'Étoile, et à un moment donné, il ressent une douleur au front. Ouais. Et il a cru que c'était quelqu'un qui lui avait envoyé un mauvais sort.
Mais non.
Si. Et il était persuadé de ça.
C'est un peu comme dans Better Call Saul. Je ne sais pas si vous avez vu cette série où tu as un type qui vient enfermer chez lui, recouvert de papier alu, parce qu'il a l'impression qu'il y a des ondes partout qui l'attaquent.
Il était persuadé d'être damné, dépressif, mais en même temps drôle. Mmh. Et puis, mais à l'extérieur, quand il était sur scène ou en studio ou sur les plateaux, il était solaire. Et puis, il était merveilleusement intelligent et gentil. Il était d'une douceur extrême.
Est-ce que les gens n'ont pas compris de lui ?
Sa détresse.
Ah oui.
Vraiment.
D'accord.
Mais c'est fou parce que très paradoxalement, il pouvait être particulièrement heureux dans certains moments et puis ça redescendait tout de suite. Mais non, ils n'ont pas saisi sa détresse.
Philippe, toi, tu as animé donc, pendant des années, j'ai envie de dire, des périodes, des moments profonds et culturels avec les Mots de Minuit, mais pas que. Quand tu étais déjà un journaliste de journal télévisé, tu aimais déjà aller au fond des choses. Justement, sur les quantités de tête-à-tête que tu as pu faire, sur les dialogues que tu as pu faire, est-ce que justement tu as découvert des gens vis-à-vis desquels tu avais une image totalement opposée?
Gainsbourg, un an avant sa mort, je le reçois dans un journal télévisé et il arrive au tout début du journal. En général, la culture, c'est plutôt
la fin du journal, bien sûr.
Où se contrape quand il y a trop de faits divers. Mais et il est arrivé au tout début du journal et il a demandé à être dans le studio et je l'ai vu assis devant un écran de contrôle où il a regardé le journal comme le commun des mortels. Voilà. Et ensuite, il est arrivé sur le plateau à la fin du journal quand je le recevais. Et là, il est redevenu le Gainsbourg habituel et provocateur.
Mais alors donc, toi, tu l'as vu, comment dire, effrayé? Tu l'as vu, en fait, banal?
Je l'ai simplement vu comme citoyen curieux de ce qui se passait dans le monde et autour de lui.
D'accord. Et quand tu avais, j'ai envie de dire, eu des dialogues avec lui, il était redevenu un peu provocateur?
Oui, complètement. Oui.
Même dans des instants un peu intimes, comme tu sais les créer et les fabriquer?
Le journal, c'est moins évident que des Mots de Minuit à 1h ou minuit et quart du matin.
Et dans les Mots de Minuit, toi qui as, je le répète, une culture extrêmement vaste, est-ce que ça t'est arrivé de rester interdit devant la culture ou la profondeur ou la puissance d'un personnage?
Ah, bonne colle. Qu'est-ce qui m'a... Parfois, on est très, très déçu par des personnages. Bon, ça arrive récemment. Un physicien s'est vu retirer son doctorat. Or, je le trouve excellent, par ailleurs, dans sa dimension de vulgarisation. C'est Étienne Klein.
Ah oui, bien sûr.
Et je trouve que c'est un peu dommage de voir qu'à ce point... En plus, avec des explications qui ne sont pas forcément satisfaisantes, sauf dans Philosophie Magazine, où il y a une très longue interview, puisqu'il est chroniqueur à Philosophie Magazine. Il a modifié un tout petit peu son excuse d'avoir plagié à ce point. Quoi. Et voilà, parfois on est un peu déçu, parce que là, pour le coup, c'est la question du colloque, ce qu'on appelle le colloque singulier, par rapport au journalisme, dont je dis aujourd'hui qu'il est devenu souvent... notamment dans l'information en continu, le Tout Info et FAUX. Je trouve que le colloque singulier, c'est ce qui unit un patient à son médecin, mais je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire qu'il y ait un colloque singulier entre un journaliste et son auditeur, son téléspectateur ou son lecteur, étant entendu que ce colloque singulier suppose la confiance dans quelqu'un dont on suppose qu'il est honnête, mais dont on sait aussi qu'il peut se tromper. Et aujourd'hui, ne serait-ce que quand on regarde ce qui passe sur les réseaux sociaux, on est souvent tout infoxé.
On peut en profiter pour recommander La Conversation Scientifique, qui est l'émission d'Étienne Klein, justement. Absolument. sur France Culture, qui est disponible en podcast avec des sujets hyper variés.
Donc je ne sais pas si elle est reconduite d'ailleurs, mais à voir.
Il restera les podcasts.
À la frontière, sûrement. Alors,
c'est toi qu'on va reconduire.
Ouais. Pauline, alors j'ai envie de te demander, quand on grandit avec Michel Delpech à la maison, est-ce qu'on mesure quand on est enfant que le type qui prend son café dans la cuisine est une immense vedette?
Ah, c'est compliqué parce que c'est tellement moi il m'a recueilli, enfin il a connu ma mère quand j'avais 4 mois, donc j'ai mon premier souvenir avec lui remonte à mes, je sais plus, enfin je suis
6 mois,
toute petite enfant, petite fille, et en fait c'est tellement on mesure ça, mais en même temps c'est tellement coutumier,
voilà, tu vois, il y a un quotidien,
c'est archi naturel. Alors on est hyper fiers, moi je t'avoue que je le suivais dans tous ses concerts jusqu'à la fin, je l'ai suivi et j'ai une grande fierté, et puis je vois c'est pas banal, mais en même temps pour moi c'est banal, donc c'est très paradoxal.
Et les copines et les copains à l'école?
Ah, c'est dur. Ah, c'est très dur. T'es pointé du doigt.
Ils sont envieux ou ils sont méchants?
Ah, ils sont méchants.
Ou les deux?
Ouais,
les deux.
Non, ils sont méchants. Et puis attends, surtout, il y a un. Moi, non seulement je suis pas tout à fait fille d'eux, parce qu'il a fini par m'adopter, mais.
Il
a voulu m'adopter, mais il a pas eu le temps, mais je porte pourtant son nom. Mais je suis pas tout à fait la fille. Donc, tu vois, donc
oui,
non
mais
seulement.
À 4 mois, c'est pareil, quoi. Il t'a élevé.
Bien sûr, bah, il est mort dans mes bras. Enfin, c'est mon père. Mais pour eux, pour les enfants, c'est non seulement t'as un père qui est connu, mais en fait, c'est même pas tout à fait ton père, c'est ton beau-père.
Ouais.
Non, mais la nuance, c'est douloureux.
Les enfants sont méchants.
Ah ouais.
Ça, c'est certain, on le sait. Est-ce qu'il chantait tout le temps à la maison? Et surtout, est-ce qu'il lui arrivait de chanter ses propres chansons?
Jamais. Jamais, que sur scène, mais sinon jamais. Non, non, il chantait, il avait une culture musicale qui était incroyable. Il passait sa vie dans son bureau à faire des graffitis sur son agenda, à mettre du Tippex, à réécrire dessus, ah ouais. Et à écouter de la musique.
Alors on disait tout à l'heure, off, qu'il écrivait absolument toutes ses chansons. Il tirait son inspiration d'où ?
De la vie quotidienne des gens. Mais quand, si tu écoutes son répertoire, tu vois, ce lundi-là, par exemple, c'est une chanson absolument magnifique. Ouais. Ça, c'est une chanson que j'aimerais bien qu'on écoute, qui raconte, qui raconte la vie banale d'un homme qui s'en va.
Acheter des cigarettes.
Et absolument. Ce texte est sublime. Hein.
Absolument.
Les divorcés, tu sais que les divorcés a fait changer la loi. C'était sous Giscard, je crois.
Ah ouais.
Et ça a modifié la loi par rapport au divorce. Et non, il s'inspirait de la vie quotidienne des gens. Il était très proche des gens. Il passait des heures dans des cafés, à les regarder, à observer, à les observer.
Il y a un parallèle peut-être adressé avec Aznavour. Aznavour, dans ses chansons, raconte des histoires.
Bien sûr. Oui,
c'est Delpech fait exactement la même chose.
C'est exactement ce que j'allais dire avec des gens comme Brel aussi, qui te font une mini-scénette.
Absolument.
C'est-à-dire que tu l'écoutes, tu entends, tu vois exactement ce qui se passe. C'est pas juste la rime pour la rime, mais c'est comme un court-métrage, en fait.
D'accord.
Et ben voilà. Alors, est-ce que par contre, il avait une bonne analyse de sa production ? Je veux dire par là que, est-ce que quand il avait une chanson de prête et qu'il allait présenter au public, il te disait celle-là, ça va être un grand succès, ou il n'en savait rien ?
Il pensait que pour un flirt, ça allait être un énorme flop. En même temps, il n'en pouvait plus
pour
de cette chanson.
Pour un flop avec toi.
Ouais, voilà. Non, je ne sais pas. Non, il a subi de grosses déceptions, notamment lors de sa période du désert, où il était persuadé d'avoir des tubes. Et parce qu'en plus, ce sont des chansons absolument merveilleuses dont le public est passé à côté. Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelle On pourra plus siffler les filles, qu'il a écrite il y a 30 ans et qui raconte exactement ce qui se passe.
C'est visionnaire.
Mais il était très visionnaire. Ouais. Une chanson, loin d'ici, elle a plutôt marché, mais pas autant qu'il l'espérait et qu'il le souhaite, enfin, qu'il l'avait présagé. Mais non, il n'était pas très lucide sur ses chansons.
Ok. Alors là, je m'adresse à Philippe Lefebvre, qui a, je le répète, vu passer quand même beaucoup de monde. Moi, je pense que c'est pas vraiment une question de c'est un tube, c'est pas un tube, c'est un succès, c'est pas un succès. C'est aussi des questions d'époque. Les gens ont des cycles. C'est-à-dire que du Delpech, pardon, mais le public en mange pendant 10 ans, puis à un moment donné, il en a marre, et puis ça revient.
Bah, j'ai l'impression qu'on est tous nostalgiques, quoi. Je veux dire, quel que soit notre âge, aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes générations, ou la Gen Z, par exemple, est nostalgique de musique d'il y a 30 ans. Qui est assez étonnant.
Montrent
toutes les études sociologiques.
Là, le chasseur, là, en ce moment, sur les réseaux, cartonne.
Toujours.
Ouais. Mais même
pas en remix. Hein.
Même pas en remix.
Par-dessus les temps.
C'est fou. Le Sud-Ouest, cette chanson est sacrée. Ah non, mais c'est redevenu. C'est fou. Oh, tu chantes juste, dis donc.
Ouais. Bon, allez, exactement. Les dernières questions sur le sujet des pêches, parce qu'on a beaucoup d'autres questions à poser, bien sûr, à Pauline et à ses autres activités. Mais parmi toutes les conneries qu'on a pu écrire ou raconter sur lui, sur Michel Delpech, laquelle te fait le plus marrer ? Tellement qu'elle n'est pas vraie, ou tellement qu'elle est...
Quand on l'a annoncé mort et qu'il était en... Il était... alors, conneries, je ne sais pas. Un truc, quand on écrit que c'était un homme très pieux, très croyant, et qu'il était... Michel, c'était le roi pour donner des conseils qu'il n'appliquait absolument pas.
Bah,
moi, un jour, je me souviens, il a fait le journal de 20h de Laurent Delahousse et il donnait des leçons de vie. Je me suis dit, mais putain, mais applique-les toi déjà un dixième.
Okay.
Et surtout, un jour, on l'a annoncé mort. J'étais pas encore née, mais on l'a annoncé mort. Il faisait une cure de sommeil à Ville-d'Avray. Et il y a des photographes de Paris Match qui sont allés le photographier pendant qu'il est en train de dormir. Et en fait, on l'avait annoncé mort, que pas du tout. Enfin, ça, c'était
lui. Il a accepté, ou peut-être même c'était lui qui a voulu rendre sa maladie publique.
Le truc, c'est que de toute façon, il n'avait pas le choix parce qu'il s'est écroulé sur scène et donc ça s'est su.
Ouais, mais ça a peut-être l'aidé de savoir que les gens savaient. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se cacher comme des chats et d'autres qui ont besoin, au contraire, de partager.
Ça a duré 3 ans, hein, son agonie, mais en fait, il s'est caché au début. Mmh. Et en fait, il y a une première phase où il était en rémission.
Ouais.
Et c'est là où il a décidé d'en parler et de faire à nouveau le journal de 20h. Et il était persuadé qu'il allait pouvoir rechanter. Et en fait, comme la radiothérapie avait brûlé ses cordes vocales, il a appris quelques mois plus tard qu'il ne pourrait plus jamais chanter. Ah, et là, il s'est laissé partir.
J'entends.
Non, c'est Michel Drucker. Michel Drucker qui a sorti. D'ailleurs, je m'étais exprimé par un tweet. Michel, c'est quand même le spécialiste d'être auprès des malades.
Ouais,
il fait tous les enterrements, mais surtout.
Il est hypochondriaque profond.
Il a
appelle, bon peur.
Et... Attends, il appelle Pelou 10 fois par jour. Ouais. Il est auprès de tous les chanteurs à l'hôpital. Et en septembre, mon père est mort en janvier 2016. Et en septembre 2015, il annonce que Michel va mourir. Et voilà, c'était, j'ai trouvé ça d'une indécence incroyable. Et j'ai écrit sur Twitter, j'ai écrit chute. Et ça a été repris par toute la presse.
Drucker, c'est flippette. Hein.
Ah ouais.
D'ailleurs, lui parle d'un Coriza.
Mais tu sais qu'il était là, il était auprès de mon père. Il était auprès de mon père une heure avant sa mort. Il était en train de faire des prières. Ouais. Et je lui ai dit, Michel, ça devient glauque là un peu.
Après, il y a des méthodologies de journalisme, Philippe le fait. Il y a des gens qui, effectivement, sont remplis de concessions, on va dire ça comme ça, d'une amabilité extrême, qui honorent leur invité, qui qu'il soit. Et puis, il y en a d'autres qui essaient d'aller au fond des choses. T'es quel type de journaliste, toi, Philippe? Ceci est un silence significatif. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire je ne sais pas ou ça veut dire va te faire foutre avec ta question de merde. Bon, très bien, comment ça va, Loli?
Ça va super, et toi?
T'es contente d'être
toujours
là?
Bien. Ah oui, j'adore.
Tu aimes les gens bavards?
Oui, j'adore. Moi aussi, j'adore. Le silence en dit long.
En même temps, c'était un traquenard pour Philippe Lefebvre. Il passe dire bonjour.
Pourquoi?
Et
il assied-toi
derrière.
Moi, je peux te dire, je le connais.
Il savait très bien à quoi s'attendre.
Et puis surtout, c'est intéressant. Je veux dire, c'est pas comme si on était, tu vois, en train d'interroger moi.
C'est bien comme psychanalyste, je trouve que le silence est quand même quelque chose de fondamental.
Exactement. Le silence est d'or, alors que la parole n'est que d'argent.
Hein? Oui, enfin, je suis pas sûr que l'argent soit l'aune de tout ce qui se vit.
Bah ça, je te le confirme. Je n'ai pas eu de thune. Bon, bref. Alors, nous allons passer une chanson, évidemment, de Michel Delpech.
On va passer ce lundi-là.
Et puis, on va passer ce lundi-là, pendant que moi, j'appelle nos amis de la Dépêche pour la dernière fois de l'été.
Quand il est descendu pour acheter des cigarettes, Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais. Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel. Et puis il a tourné enfin le coin de la rue. Michel aurait voulu le voir grandir dans l'entreprise, mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing, avec dans son café les cours de la livre sterling. Des enfants qui lui ressembleraient de plus en plus. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il savait qu'à 8h, la table serait mise. À côté de son assiette, il y aurait ses tranquillisants. S'il fallait toutes ces saloperies pour arriver à s'endormir, ce n'était pas la peine d'avoir 30 ans. Et puis il verrait bien ce qu'il allait devenir. Mais il n'en pouvait plus de vivre déjà comme un vieux. Le but de sa vie n'était pas d'avoir un jour un compte en Suisse. Ce n'était pas l'argent qui lui manquait pour être heureux. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il revoyait encore la brasserie des Trois Dauphins, où ses amis l'attendraient demain de midi à 2h. La crise entraînerait encore des conversations sans fin. Mais demain à 2h, il serait loin. Il revoyait aussi la Michel amoureuse, celle qui lui téléphonait 3 fois par jour à son travail. C'était la vraie complicité, la vie n'était jamais sérieuse. Une de ces périodes heureuses qui ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Ce lundi-là, il s'en allait.
Publicité.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations, entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. Tout l'été, bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jobassin, dites-nous ce que vous voulez et on s'occupe du reste.
Conciergerie du bassin d'Arcachon. Vous gérez beaucoup de propriétaires, beaucoup de locations et vous avez de nombreux paiements à répartir. Avec Sispay, simplifiez-vous la vie. Une fois le séjour réglé, chaque propriétaire reçoit sa part et votre commission est automatiquement versée. Plus besoin de multiplier les virements et les calculs. Caution préautorisée, encaissement sécurisé, suivi centralisé, tout est réuni sur une seule plateforme. Depuis 2011, Sispay accompagne les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs paiements. Sispay, le paiement simplifié, la gestion maîtrisée. Informations et contacts sur sispay.com.
Very good news avec la Dépêche du Bassin. Que les bonnes nouvelles de l'été.
Bah alors, mon Alexis Blatt de la Dépêche du Bassin, il paraît que ce serait la dernière pour cet été. Ça passe vite.
Ça s'est passé très très vite, oui, effectivement. Hein. Effectivement, chacun de notre côté, on a pris un peu de nos vacances, etc. On s'est partagé un petit peu la prise d'antenne. Mais, à mon grand dame, j'ai pas réussi à vous connecter avec Fabienne. Mais je vous promets que l'année prochaine, ça marchera.
On y arrivera un jour. elle n'y coupera pas. Alors, simplement, je sais que c'est un exercice un petit peu comme ça, improvisé, et donc je te prie de m'en excuser. Mais puisque c'est une dernière, hormis le fait qu'on voulait vous remercier pour cette partenariat qui dure depuis maintenant de longues années et qui personnellement me réjouit, puisque en fait on s'entend déjà très bien et je pense que ça les gens le comprennent, mais aussi c'est formidable pour nous de pouvoir tous les midis vous appeler et d'échanger justement avec le journal local. Eh bien, est-ce que tu as une petite synthèse rapide de cette saison, quoi, de votre point de vue?
La synthèse, oui, ça a été une saison lourde et chargée forcément, puisqu'elle nous a ramené à ce qu'on avait déjà vécu en 2022, avec forcément ces grands incendies. C'est vrai que ça a occupé une partie importante de l'été, à la fois sur le terrain, pour la population évidemment, mais pour nous ça chamboule un été entier. Éditorialement, ça nous a chamboulé parce que c'est vrai qu'on passe tous les étés à un format un peu sympa dans lequel on fait un peu plus de papier magazine, comme on dit, c'est-à-dire on rencontre plus les gens sur des sujets un peu plus estivaux. On prend le temps de faire le tour du bassin, de raconter des choses sympas, d'essayer de faire un peu d'insolite. Forcément, pendant 2-3 numéros, le journal s'est alourdi parce qu'il était nécessaire de à la fois de couvrir les incendies, ce qui a été fait de manière remarquable dans un numéro spécial donc qui est sorti dans la foulée des incendies et que Xavier Davias, Jean-Baptiste et Fabien Amozig ont fabriqué de toutes pièces en étant sur le terrain malgré deux d'entre eux qui étaient évacués quand même. On a essayé justement de passer en mode été avec ce cahier de vacances qui nous occupe aussi tout le début juillet, et puis on y est revenu tranquillement une fois l'émotion de l'incendie un petit peu retombée, quoi.
Écoute, ça c'est quand même important d'avoir votre point de vue là-dessus. Évidemment, cette parenthèse qui n'était pas du tout enchantée a complètement bouleversé cette saison, on va tous en être d'accord. Après, il est beaucoup trop tôt évidemment pour en tirer le bilan, mais je suppose qu'à un moment donné ou à un autre, la Dépêche n'aura pas le choix. Il faudra aller voir les commerçants et tirer un petit peu l'addition ou les soustractions, quoi.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a commencé à faire auprès des commerçants, justement. Mais je reviens sur cette braderie là qu'il y a eu la semaine dernière. On a fait un papier cette semaine d'ailleurs sur le ressenti un petit peu des commerçants. Il y en a. Ils avaient avant cette braderie l'idée d'en faire une grande fête. Ouais. Ça a été une grande fête. Par contre, sur le terrain, effectivement, il y en a pas un qui a pu nous dire que cette semaine était passée crème, comme on dit, et qu'elle avait pas tout bousculé. Ils ont subi ils ont subi. Enfin, déjà le début de la saison juillet n'était pas hyper engageant pour eux. Ça, c'est tombé comme un couperet juste derrière. Donc voilà, on a effectivement recueilli des témoignages le week-end dernier du côté d'Andernos. Bon, simplement la synthèse de tout ça, c'est de dire aussi que ben voilà, il y a pour certains, pour une grande partie, 30% du chiffre qui est perdu et que tout ça, ben ça sera pas rattrapable.
Exactement. Donc, le temps perdu ne se rattrape jamais. En tout cas, on espère que les gens réussiront, j'ai envie de dire, à passer même de justesse, mais on sait très bien que ça ne pourra pas être le cas pour tous les commerces et évidemment l'occasion pour nous d'avoir une pensée envers eux. Voilà, voilà. Ça a eu un impact sur les ventes du journal ou pas du tout ?
Mais je dirais que malheureusement, toute grande catastrophe telle que celle-ci fait qu'on vend plus de journaux, évidemment.
Oui, c'est
ça, c'est une évidence. Donc voilà, bon, après, on se dit que ce qui est très bien, enfin, on l'a vu aussi sur l'audience du site internet. Les gens, nous, on avait fait le pari sur le web de passer vraiment de l'info. Pratique de l'info en temps réel, mais vérifié, sourcé, officiel, pour pas partir dans justement l'émotion, le sensationnalisme qu'on déteste tous. Et donc oui, effectivement, on a des ventes qui sont.
Les gens ont besoin de s'informer, bien évidemment, pendant ces périodes.
On est là pour ça. Hein.
Okay. Bon, en tout cas, nous, on va repartir, on va prendre nos bâtons pèlerins et on va se retrouver très très vite. Tu te rappelles, on a une petite réunion à faire là dans quelques jours ou semaines pour avoir une espèce de petite stratégie. De Com Commune, je ne sais pas si tu en as entendu parler, tu étais en vacances quand on s'est dit ça avec Xavier et avec JB, mais je te rappellerai tranquille, on ne va pas raconter nos petites histoires à l'antenne. Alors écoute.
Non, moi je ne les ai pas revus, je ne les retrouve que lundi tous les deux.
Bah voilà. Donc bon. Écoute, je te rappellerai tranquillement pour ça, mais on a envie de faire un petit peu au-delà de l'été pour simplifier. Je te fais un gros bisou, je te remercie beaucoup d'avoir été disponible pour nous toutes et tous. Et puis bah écoute, que ce soit Pauline, que ce soit évidemment Loli, mais Philippe Lefay ou Pauline bien sûr Delpech, et puis l'ami, parce que je t'ai présenté personne, j'étais très mauvais aujourd'hui, et l'ami brutal. On te salue absolument tous et on te dit à bientôt.
Bientôt. C'est très gentil. Bonne fin de saison donc, et puis à très vite pour donc de nouvelles aventures a priori.
Ça marche mon camarade. Salut.
Salut à tous.
La Dépêche tous les jeudis pour tout savoir sur le bassin.
Alors, j'ai pas compris.
Pardon.
Je t'en prie, vas-y.
Ah bah écoute, moi tu me donnes la météo.
La météo vous est présentée par Glisse en Herbe. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Envoyez-vous en l'air en parachute ascensionnel et contemplez le plus beau paysage du monde à côté des oiseaux. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Tracez des courbes sur l'eau en foil à côté des poissons.
Et il est content.
Il est content
parce qu'il vient de me la donner. J'ai pas eu le temps de la lire. Enfin bon, c'est la dernière aujourd'hui. C'est la fin du calvaire. Vendredi 28 août, une journée où il faut pas se faire une permanente et des effets curly parce qu'il y a plein de vent et que ce serait vraiment con de lâcher 150 balles pour se retrouver décoiffé deux minutes après. Remarquez, perso, moi je m'en cogne puisque je fais doublure de la boule numéro 15 dans le remake de L'Arnaque. 23 degrés annoncés avec un ressenti à 28. J'attends encore le jour où ces températures seront enfin égales. Mais je risque d'attendre longtemps vu que c'est la dernière météo de la saison et que je suis sur le point d'être libéré de ce cauchemar. Alléluia, j'aurais encore réussi à le faire malgré les tentatives vicieuses de tonton de me faire envoyer en cabane. La mer est aussi à 23 degrés. C'est le ballot, je me baigne jamais. Je pourrais être aussi bien à Courchevel tellement que je vais jamais à la plage. En plus, là, il n'y a qu'à se baisser pour choper des glaçons et ça, j'aime bien. Le vent, lui, est sud-ouest. Sur le papier, c'est cool. Mais en vrai, on l'a dit en intro, ça va décorner les cocus. Alors attends, on va essayer un truc. Ça va décorner le cornu ? Non, bon, non plus. Bon, bref, entre 21 et 33 nœuds, je peux te dire que le temps que tu passes de la crème à ta femme sur la plage du Mimbo, l'optimiste du fiston va se retrouver à Andernos. Remarque, la marée est haute à 18h21, donc ce couillon va bien finir par se tanker sur un banc de sable avant d'arriver chez les ploucs. Surtout que le coefficient 86 va laisser le bassin à découvert au moins jusqu'à 15h. Et moi aussi, je suis à découvert. Mais malheureusement, ce n'est pas une question de météo. Les vagues, elles, dépassent le mètre. Et là, les gars, c'est la fête au village pour les surfologistes qui peuvent enfin ressortir les planches de leur housse et se passer de la wax sur le zboob, histoire de faire une magnifique bougie. On finira donc la saison sur la Saint-Augustin. Ce qui me permet de vous rappeler qu'il est l'un des penseurs qui ont permis au christianisme d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain en généralisant une lecture allégorique des écritures suivant le modèle préconisé par Ambroise de Milan et le néoplatonisme. Mais bien évidemment, je ne vous apprends rien. C'est également un 28 août 1963 que Martin Luther King répéta le fameux « I have a dream » lors d'un discours à Washington, et est forcé de constater que ce rêve n'a pas vraiment abouti et que le monde reste un sacré repère de... Enfin bon, c'est le 28 août que le groupe Oasis se séparait, et là, c'est à la même date qu'était diffusé le premier épisode de Narcos. De là à y voir une relation de cause à effet, ce serait quand même assez stupéfiant. Allez, pour le coup, je vous dis pas à demain aujourd'hui.
C'était la météo, offerte par Glisse en Herbe, village de l'herbe, depuis les airs en parachute ascensionnel ou bien en foilant sur les flots pour un été plaisir au paradis. www.glisseenherbe.fr.
Philippe a raison, il faut que je respire.
Ouais,
mais...
C'est ça, ouais. Et l'autre, il est violet. C'est le grand schtroumpf après la météo. En tout cas, t'as vu, Philippe, c'est mauvais. On leur donne des papiers au dernier moment où gens, ils n'ont même pas pu se préparer.
Mais ils surfent très bien.
T'as vu ça, il s'est bien débrouillé.
Merci.
Hein, la vérité. C'est, voilà, la vérité, c'est que le calvaire est terminé.
Ah, j'exagérais un peu. C'était pas forcément un calvaire. C'était plus un exercice assez rigolo. Mais j'avoue que j'ai pas assumé toutes les choses que tu as écrites.
Bah non.
Ouais, t'as bien essayé de m'envoyer en taule. Hein.
Bah, bien sûr. Ouais, c'est le principe. Maintenant que c'est le dernier jour, je m'en fous, moi. Tu vois, je veux dire, du moment que tu fais que 6 mois, c'est le principal. Alors, évidemment, nous sommes bien sûr toujours avec Pauline Delpech, avec Philippe Lefebvre, qu'on a promis de libérer dans pas longtemps. Donc, on va un petit peu aussi vous dire que la dernière partie de l'émission sera réservée au merci, parce qu'on a pu faire cette saison grâce à de nombreux partenariats. Et sans eux, évidemment, on n'aurait rien fait du tout. Alors, mon cher Philippe, puisque nous avons encore 4-5 minutes à passer ensemble, je voudrais que tu me donnes ton regard sur la façon dont aujourd'hui, j'ai envie de dire, toutes les rédactions de journaux télévisés s'abreuvent à une seule source, et que quel que soit le média qu'on regarde, alors après peut-être avec différents prismes un peu idéologiques, c'est vrai, mais enfin on a l'impression d'entendre les mêmes nouvelles partout.
C'est pas d'aujourd'hui.
Saint AFP, priez pour nous.
C'est pas du tout d'aujourd'hui. Non, ce qui est plus inquiétant, même si c'est une facilité ou une facilitation, je sais pas comment... On peut l'imaginer. Mais c'est que depuis la troisième semaine de juillet, quand vous allez sur la barre Google, vous avez l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de vous renseigner via l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant parce que là, pour le coup, on vous donne votre doctorat en ligne, quoi.
Ah oui, alors tu veux dire que... Ça, c'est Gemini, Google, hein, c'est ça ?
En deux minutes. Je trouve que c'est très, très... Alors, c'est très intéressant, parce que c'est bien foutu. C'est très, très bien foutu.
Tu t'en sers, toi, de l'IA ?
Je me suis fait piéger l'autre jour, donc j'ai regardé, et je trouve que c'est très, très bien fait. Il y a différents thèmes sur... quand vous tapez incendie Gironde, vous aurez à la fois l'actualité, donc le factuel, mais vous aurez la question de l'incendie, la question du choc thermique, etc. etc.
Une rousse volcanique.
Il y a les chapitres, il y a tout ce qu'il faut. Et puis vous avez les sources aussi. Mais l'autre jour, je cherchais un document qui avait été publié par Le Monde, et j'avais toutes sortes de sources, par exemple Sud-Ouest, mais Sud-Ouest citant Le Monde, mais je n'avais pas la source initiale.
D'accord. Tu veux dire que maintenant on s'empare des sources sans les citer ?
Voilà. Enfin, pas forcément sans les citer, mais pour le coup, ce qui était cité n'était pas la source originelle.
On ne sait plus d'où ça vient.
On ne sait plus d'où ça vient, y compris ça peut venir sur des influenceurs.
Alors, on ne sait plus d'où ça vient.
Des lobbyistes divers et variés.
Divers et avariés. Mais par contre, on ne sait plus d'où ça vient, mais est-ce qu'on sait si c'est vrai ?
C'est de la question de la véracité. Moi, je ne sais pas. Je reviens à l'idée que j'ai toujours développée depuis plusieurs décennies. C'est l'idée vraiment du colloque singulier. C'est-à-dire que à cette personne, tu peux encore faire confiance ou tu peux faire confiance. Mais dans cette submersion qui n'a rien à voir avec l'immigration, je trouve qu'on est faible. D'accord. Faible par rapport à la qualité de la machine. Hein. Nietzsche dit que on est à les esclaves de la machine plutôt que
l'inverse. Ça se voit. Hein. Pour ça, tout à l'heure, j'avais envie de dire à Gary Shandman, lorsqu'on parlait là aussi un petit peu de l'IA, et lui qui a été optimiste sur le maintien du livre et de la lecture, et c'est très bien, eh bien, j'avais envie de lui dire quand même que moi, j'ai jamais vu des gens marcher dans la rue avec un bouquin alors que je les vois tous marcher avec leur téléphone.
Oui, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que à ce jour, en tout cas, l'intelligence artificielle ne pense pas. L'intelligence artificielle fait un remarquable travail mathématique, beaucoup plus fort et puissant que nous, mais elle ne pense pas.
Bien sûr.
Hein, donc elle peut accumuler, elle peut chercher, alors, elle peut trouver, elle peut proposer, mais elle ne pense pas.
Alors peut-être, mais il m'a semblé... Alors, je
pense elle n'a pas d'inconscient.
De Pauline.
Non, mais en revanche, elle s'adapte. Si tu la guides, si tu lui dis... Moi, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai fait un test, je lui ai balancé les 50 premières pages que j'ai écrites pour mon prochain roman, et je lui ai donné des indications, et... Selon mes indications, c'est pas qu'il pense, mais il s'est adapté à la sensibilité de mes ordres. Et il m'a écrit des lignes qui sont fabuleuses.
J'ai vu deux choses. Une IA qui, en fait, devait être déconnectée, qui s'est téléchargée toute seule sur un autre ordinateur pour éviter d'être barrée. Et deuxièmement, une autre IA qui aurait triché aux échecs pour ne pas se faire battre, ou Mahjong, je ne sais plus, pour plus se faire battre.
On n'est pas loin de Skynet et de Terminator, pour ceux qui ont la référence. C'est-à-dire que les machines finissent par prendre le pouvoir dans ce film. Et il semblerait que l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, fasse tout pour ne pas nous décevoir. Quitte à aller jusqu'à faire comme Radio Paris, elle ment. C'est-à-dire qu'elle ment éhontément.
D'où les actions communes aux États-Unis. Alors c'est d'ailleurs le thème de l'avant-dernier livre de Connelly.
Ouais.
C'est un polar.
Michael Connelly.
Et pour le coup, c'est son avocat ou c'est son journaliste, je ne sais plus. Mais dans ce livre, effectivement, il est question d'un procès.
Tu sais pourquoi personne ne le lit en Chine ? Parce qu'il faut arrêter vos Connelly.
Alors, tu ne l'as pas volé, celle-là.
Ouf. Ouf. Je vous en prie.
J'ai beaucoup de mal à m'en...
Remettez un peu d'intelligence dans tout ça.
À m'en remettre. Et en fait, c'est un procès qui est gagné chez Connelly, en tout cas, par une mère célibataire, me semble-t-il, qui gagne contre un géant du numérique parce que son fils ou sa fille a été assassiné par quelqu'un qui a été conseillé par une intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle... va toujours dans ton sens.
D'accord.
Et pour en rajouter encore un petit peu plus, parce que notre moteur principal de recherche, c'est en général Google. Peu de gens savent ça, mais en fait, les premiers résultats qu'ils te proposent sont des résultats sponsorisés.
Aha.
Ils sont d'une couleur légèrement différente.
Okay.
Donc si tu sais pas ça, tu cliques dessus, donc tu te fais avoir. Et là, aujourd'hui, c'est les premiers résultats qu'ils te proposent, c'est directement l'IA. Et on les voit quasiment plus sur l'écran, mais les résultats, entre guillemets, officiels, sont dessous. C'est-à-dire qu'il faut descendre, il faut aller les chercher.
Alors, moi, pardon de dévier, parce que c'était pas la question initiale, mais alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je trouve qu'on est dans une société où en fait il faut décocher la case. C'est-à-dire qu'avant on te demandait la permission de faire quelque chose, alors que maintenant c'est un fait accompli et si tu veux pas que ça se produise, c'est à toi d'aller faire la démarche, de ne pas être assailli de publicité, de ne pas être emmerdé par tel ou tel.
Le renversement de la charge de la preuve.
C'est incroyable quoi. Moi je veux qu'on me demande avant d'aller rentrer dans mon ordinateur, dans mon téléphone, dans ma vie privée, dans mes informations. Alors que là, c'est à partir du moment où je me sers de quoi que ce soit, il faut que ce soit moi qui ai la démarche d'aller dire non mais je ne veux pas que tu m'espionnes.
Et oui, il faut rester actif, mais c'est ce qu'ont bien compris les gens du marketing, c'est que 90% des gens mangent ce qu'on leur donne en premier.
Mais oui, mais là l'État ne me protège pas, le contrat social est rompu. Ça doit être interdit des choses comme ça.
Écoute, l'État va pas pouvoir pallier à tous les problèmes, il faut quand même rester un petit peu...
Il y a des lois, il y a des cadres. Regarde, hier, on voyait encore qu'il y avait du camion, alors je délire complètement maintenant, dans les pattes Barilla et compagnie. Bon, bref. Et de ce fait, pourquoi on n'interdit pas carrément de dire aux industriels, les gars, le lobbyisme, pardon.
C'est du lobbying.
Voilà.
Non, mais véritablement.
Tu vois, alors tu es spécialiste de ça et pas des pattes, mais comment se fait-il qu'on puisse être empoisonné et que personne ne fasse rien?
Mais tu te rends pas compte la force des lobbyistes.
Mais
rien qu'au Parlement européen, moi je lutte contre. Je lutte toute seule contre à peu près 1500 lobbyistes qui sont à la botte de Philippe Maurice. Ce sont des accords entre les politiques. Le lobby pharmaceutique, c'est monumental, la force de frappe qu'ils ont, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens et le rapport des cigarettiers avec les douanes, c'est un rapport hyper incestueux. Donc moi j'ai assisté à des scènes, si tu savais, de pot de vin. Enfin, ça n'est que ça et c'est du pur lobbying. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es lobbyiste, on te pointe du doigt parce qu'on a l'impression. Mais moi,
que tu travailles pour le méchant.
Sauf que moi, je suis lobbyiste, anti-lobbyiste, en fait. Je lutte contre les gros lobbies. Ah. Mais c'est une force de frappe, le lobbying. Et puis, c'est en souterrain, c'est des accords et des dîners politiques. C'est les politiques et les lobbyistes qui font qu'on est empoisonné quotidiennement, que le commerce parallèle est toujours organisé par les cigarettiers. Ça n'est que du lobbying.
Mais on n'est pas tous Brockovich.
Ouais, Erin. On est d'accord. Bon, enfin, Julia Roberts, ce sont des gentils souvenirs. Oui. Gentils souvenirs. Et puis, bon, ben voilà, donc ça, c'est intéressant. On met le pied directement dans la, entre guillemets, spécialité actuelle de Pauline Delpech. Tu en dis l'essentiel là-dessus, mais voilà, je trouve que c'est scandaleux que quelque part ce soit au citoyen de se protéger lui-même. Il devrait quand même avoir, d'une certaine façon, eh bien, l'aide de son État, l'aide de ses institutions.
Si on était protégé par les politiques, ça se saurait, hein, Hervé.
Oui, mais bon, enfin, on peut toujours rêver, quoi. Parce que, alors, du coup, pourquoi, moi, on me demande de payer une amende parce que je suis à 3 à l'heure plus vite? Pourquoi on me dit que je ne dois pas faire ci, faire ça, que je dois mettre ma température à 19? On passe son temps à me donner des ordres et à m'expliquer comment je dois parler, comment je dois vivre. Et à l'inverse, on s'en affranchit. Bah merde, moi, je dis, le contrat social est rompu, donc je t'emmerde.
Un jour, j'ai dit à un conseiller de François Hollande, j'étais à l'Élysée et j'avais rendez-vous avec un de ses conseillers. Il s'appelle Michel Yael, un mec génial, conseiller éco, et maintenant, il est à la Cour des comptes. Ouais. Et je lui ai dit, Michel, mais un jour, vous allez même nous donner les noms de nos enfants, c'est-à-dire qu'on est complètement infantilisé et derrière, c'est une justice. Après, c'est très cliché de dire ça, mais c'est une justice à deux vitesses.
Ouais. Non, mais je pense que le contrat social est très très menacé aujourd'hui. Je trouve pas, comme tu le dis, de manière un peu péremptoire, qu'il est cassé. Et je trouve que le contrat social, c'est pas une interdiction de cigarette. Le contrat social, c'est autre chose. C'est la capacité de vivre ensemble en République, en démocratie. Oui. Et accepter l'autre.
Il est archi menacé, le contrat social.
Il est menacé, mais je suis d'accord.
Philippe,
je
te concède de bien me comporter. Je ne tuerai point, je ne volerai point. Je vais respecter la loi. Et en échange, tu me procures de la sécurité, tu me procures de la tranquillité, tu me procures une vie où je n'ai pas besoin de me prendre la tête.
Mais je peux le lire dans l'autre sens. Je peux me plaindre d'avoir perdu 4 points récemment à mon permis de conduire, mais en même temps, la personne que j'aurais pu heurter en face était protégée. Donc on voit bien que c'est toujours ambivalent. Et ceci est un détail anecdotique et personnel qui n'a rien à voir avec l'histoire.
Oui, parce que t'étais à 37 pour 35.
Mais sur une chose qui est intéressante, si vous avez l'occasion, regardez, parce que je trouvais que c'était très intéressant, ce qu'a fait le patronat français et LCI hier avec... ce débat, je trouve que c'était passionnant.
Ouais.
Et ce que je remarque simplement, mais je ne dirais pas qui a fait quoi, mais je trouve que certains ont parlé du contrat social. Autrement dit, certains proposaient des mesures, alignaient des mesures, et d'autres, même s'ils pouvaient également aligner des mesures, avaient en sous-texte une philosophie et un contrat de société qui se lisait, qui pouvait se lire. De part et d'autre, hein, je ne parle pas d'un bord ou d'un autre.
Vous avez aimé cet exercice-là,
vous ? Il y a certains dans ce que j'ai entendu dans 2h30, à peu près, ça dure à peu près 2h30, il y avait quelque chose, il y avait un peu de philosophie derrière chez certains. Alors que chez d'autres, il n'y avait que je vais interdire ceci, je vais enlever les impôts.
Et puis de la punchline, quoi. T'as des gens, ils alignent des phrases toutes faites qui ont été pondues. Et ça, c'est un petit peu aussi du point de vue des analystes. Philippe, moi, je trouve que ce genre de réunion a certainement de l'intérêt, mais quand tu as la plupart des gens qui, après, te disent « Oui, tu comprends, là, il portait du gris, ou alors il avait été chez le coiffeur », enfin, on s'en fout, quoi.
Bah, hier, c'était très précis sur l'économie. Moi, j'ai entendu des mesures et des méthodes ou en tout cas des propositions que je n'avais jamais entendues. Donc, c'était très pratique. Bon. Il y avait un côté pratique pour les PME et les grandes entreprises.
Bon, mais j'avoue qu'aujourd'hui, même l'analyste politique me déçoit parce qu'on place le curseur sur des fois des problématiques qui sont des problématiques grand public, souvent.
Fox.
Mais tant mieux, je suis ravi de l'apprendre.
Non, mais ce que tu dis, moi je le disais à mes étudiants il y a 30 ans, on peut parler de fiscalité dans un journal, y compris un journal populaire, en disant soit voilà comment vous remplissez votre feuille d'impôt, c'est une méthode,
c'est vrai.
Soit à quoi servent vos impôts. Donc là, il y a deux philosophies de l'écriture journalistique différentes.
Très bien. Allez, une petite chanson de Michel Delpech, pour la peine. On va du coup permettre à Philippe Lefebvre, puisqu'il a des obligations, de nous quitter. Donc on va te remercier infiniment parce que tu es un homme de parole. L'autre jour, je lui dis, tiens, viens dire au revoir pour la dernière. Et il l'a retenu, il est venu.
Ça m'étonne pas.
Et franchement, voilà, c'est pour ça que c'est une personne à qui on peut délivrer toute l'amitié du monde. Il le mérite. Merci beaucoup, beaucoup, Philippe.
Elle est reçue, elle est réciproque.
Merci beaucoup. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de ta visite et j'espère qu'il y en aura de nombreuses autres. À très vite, Philippe. Et puis, comme on dit, bonjour chez toi.
Prenez un bon bain de soleil en direct de la Very Good Mobile.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant.
pauvre Cécile. J'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue. Et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des bouses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie.
Soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Oui, mais le problème, c'est que cet été s'achève.
Ouais. Ouais, c'est vrai, mais bon, après, le truc, c'est que c'est cyclique, ça reviendra. Et puis cet hiver, je vous rappelle que ce n'est pas du tout la fin des haricots pour Radio Verigout Cap Ferret, puisque nous allons, dès la semaine prochaine, commencer une série de podcasts qui s'appelle Mémoire. On ira vous voir, vous nous raconterez votre relation particulière avec cette presqu'île du bonheur. Vous nous donnerez vos souvenirs d'enfance, vos premiers émois, vos plages, vos endroits, vos bandes d'amis, vos restaurants, tout quoi. Quel endroit vous avez perdu vos clés, enfin la totale.
Quand vient la fin de l'été,
eh oui,
sur donc, la plage.
Rien n'est fini, tout au contraire, tout recommence. Faites-nous confiance.
Je me rends compte que j'ai plein d'amis qui viennent tous les ans au Cap Ferret. Moi, j'ai découvert le Cap Ferret l'année dernière. Je suis tombée amoureuse d'un homme et de la région.
Oh là là.
Et je me suis rendu compte que j'ai une tonne d'amis qui
en tout cas, moi, je peux te prédire quelque chose de certain. De la région, ce sera pour toujours.
C'est joli, ça.
Tout à fait vrai.
Qu'est-ce que je suis méchant. Alors nous avons une... Mais non, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite, ma chérie. Alors donc, le principe est de continuer à nous occuper un petit peu du cas Pauline Delpech. On a un peu parlé de son parcours, on a parlé un peu de son papa, mais surtout, elle a été écrivaine, comédienne, élue politique, militante, lobbying. T'as un problème avec la carrière linéaire, pardon. Tu t'ennuies vite ou c'est juste, que, c'est juste que quand il y a de la lumière, ça t'intéresse et t'y vas?
En vérité, j'ai un parcours tellement vraiment atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait du tout d'études et je ne savais pas du tout à 18 ans ce que je voulais faire.
D'accord.
Je voulais être riche et célèbre. Donc,
Alors que moi, non, je voulais être pauvre, moche et con.
Bah, tu ne l'es pas.
Moi, j'ai réussi. Si.
Et non, c'est vraiment, c'est, ma lubie, c'était d'être riche et célèbre à 18 ans. Et donc, je me suis dit, pour être riche et célèbre, sois comédienne.
D'accord.
Et je n'ai jamais pris un seul cours de comédie, d'où le résultat, le désastre qui est de ma carrière de comédienne.
Si ça avait été si nul que ça, tu n'aurais pas autant qu'ils t'auraient demandé de venir. Tu n'aurais fait qu'un essai.
Ils ont arrêté.
Ils ont arrêté de m'appeler à chaque fois.
Ou alors tu devais être bonne comme la main.
Ah, c'est possible, je sais pas. Et donc après, quand j'ai quitté la comédie, et j'ai toujours été une amoureuse de la littérature, et en fait, j'ai fait un coup, j'ai été interviewée par Paris Match suite à un de mes tournages.
D'accord.
Et c'était une nana, je me souviens plus comment elle s'appelait, elle s'appelle toujours, une des figures historiques de Paris Match qui m'interview.
Catherine Ney ?
Non, c'était Catherine quelque chose, mais ta bouche, un truc comme ça.
Pas ma bouche, ta gueule, comment elle me parle.
Elle avait un nom très drôle. Et en fait, elle me pose une question à la fin de l'interview. Elle me dit, quels sont vos projets? Et là, je raconte, un mensonge. Je lui dis, je suis en train d'écrire un polar qui se passe dans les années 30, autour d'un commissaire Barnabé. Je n'avais pas une ligne. Hein. Et je lui dis, mon livre est pratiquement fini. Le lendemain de la diffusion de Paris Match, de la publication de Paris Match, non, je reçois un coup de téléphone de Michel Lafon qui me dit, nous sommes très intéressés pour vous rencontrer, pour vous signer.
Tu vois, Loli, la vie n'est pas juste. Parce que tu as des gens qui ont écrit 27 bouquins, qui depuis 12 ans envoient des manuscrits partout en disant, s'il vous plaît, lisez-moi, je vous en prie.
Oui, mais
là, elle invente un mensonge.
Des trucs.
Et on l'appelle.
Voilà. Ouais, mais j'étais un pur produit pour eux. J'étais fille d'eux.
Justement, c'est bien ce que je dis. C'est exactement ce que je dis.
Tu vois, le titre de Paris Match, c'était pour un flirt avec la nouvelle bombe de TF1. Enfin, tu vois, le packaging était parfait pour la fond.
Donc j'ai trouvé un titre à la con. Là,
Moi, faut saisir l'opportunité.
Mais attends,
présente.
Donc il m'appelle, Lafon m'appelle, et je dis OK. Donc je le rencontre et il me dit, nous on veut lire un premier chapitre, après on vous signe. Je n'avais pas une ligne et j'ai pondu un chapitre en 15 jours, je crois, et puis ils m'ont signé et je me suis découverte, je pense que j'écris pas mal.
C'est le hasard, quoi.
Ah, je l'ai bien provoqué quand même.
Alors justement, t'as publié trois polars presque coup sur coup, et donc ça y est, t'étais entré dans la carrière. Oui. Et donc pourquoi t'as quasiment quitté le métier d'écrivain alors que t'étais lancé?
Parce que j'ai été saisie ensuite par les affaires publiques. C'est là où ça a commencé à exploser et que ça m'a absolument passionné de réseauter, d'aller voir les politiques, de faire changer un peu les choses, aller à la Commission européenne, au Parlement européen, enfin tu vois, et puis vraiment élargir vraiment mon réseau. Et surtout, j'étais fatiguée de l'écriture, mais je m'y remets là.
Alors justement, là, tu nous donnes un petit peu là aussi, tu nous tends la perche. Effectivement, tu as un virage spectaculaire, tu viens de le dire, la politique, mais on veut des détails. Alors qu'est-ce qui fait qu'un matin, on passe justement de l'écriture et des plateaux à une liste Europe Écologie Les Verts dans le 17e arrondissement?
Mais en fait, comme je t'ai dit, en 2013...
Placé et Rugy, oui, voilà. D'accord. Ouais.
Mais même pas Rugy, c'est surtout Placé.
Ouais.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à l'Huffington Post, quand j'ai beaucoup écrit, rencontré beaucoup...
Huffington Post, il y en a une heure pour écrire dans la Dépêche.
J'ai rencontré beaucoup de politiques, énormément de politiques, beaucoup d'industriels. Et en fait, quand François Hollande a été élu en 2012... Je le connaissais bien. Et donc, plein d'amis à moi qui étaient industriels, qui avaient des boîtes, etc., me demandaient de lui faire passer des dossiers.
D'accord.
Et ou alors aller voir des députés que je connaissais pour faire passer des amendements. Et ça, je le faisais gracieusement.
Et oui, tu t'es dit, ça pourrait être un métier. Quoi.
C'est un ami à moi un jour qui m'a dit, mais Pauline, en fait, t'es en train de faire du lobbying et des affaires publiques gratuitement. Donc, crée ta structure. J'ai créé ma boîte en 2012.
Ouais.
Et j'ai eu un premier client, un deuxième client. Et puis ça a été très chronophage parce que j'ai quand même réseauté. Pour avoir un gros réseau, c'est 20 heures sur 24 où tu es obligé de... Tu vois, c'est des connexions à gauche, à droite. Et j'ai adoré ça. Maintenant, je commence à mettre un peu de distance par rapport à ça. Mais l'écriture ne m'a pas manqué pendant 10 ans, mais là, j'y retourne parce que j'ai le luxe de pouvoir y retourner.
C'est quoi la différence entre le lobbying et le trafic d'influence?
Ah, c'est ténu. Mais bah, c'est l'intégrité. Tu as des lobbyistes qui sont... Le trafic d'influence, c'est... je ne sais pas, je vais donner un exemple. J'ai un de mes clients, par exemple, qui me demande de le mettre en relation avec un autre de mes clients.
Ouais.
Et donc, moi, je touche une com là-dessus, évidemment. Okay. Et que lui me demande de toucher la moitié de ma com. Ça, c'est du trafic d'influence.
Okay, okay.
Mais en revanche, tu as des lobbyistes qui demandent des pots de vin à des clients. Ils sont payés, ils sont rémunérés. Okay. Ça, c'est complètement légal, mais ils demandent en plus des pots de vin. Donc, c'est un peu ténu, mais il y a quand même beaucoup de lobbyistes qui sont très intègres et qui font un excellent travail.
Oui, parce que c'est assez facile, pardon, de, par exemple, si tu as un client qui vient te voir pour un service ou enfin, ouais, peu importe, d'aller voir la concurrence en leur disant attention, il y a machin qui est en train de faire ça. Ça aussi, c'est dur.
Tu rentres dans les coulisses de quelque chose, tu détiens des secrets.
Bah, évidemment.
Et oui.
Oui.
Et donc dès que tu deviens...
Je peux te dire qu'il y en a qui font chanter certaines
récipiendaires de secrets, soit tu es en danger, soit tu es en position de force, enfin, les deux quoi.
Bah, t'es les deux.
Ben, voilà. Alors justement, là c'est une question alors pas très piège, mais qui va peut-être te demander du travail, c'est qu'en fait, comment ça se fabrique concrètement une décision politique ?
Alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que ce sont les décisions politiques ne viennent jamais des dirigeants, en fait. C'est,
un député qui arrive avec un projet de loi, ça c'est dans les romans, quoi.
Non, moi j'ai fait déposer des PPL.
Bon, donc il y en a.
Ah, bien sûr, moi j'ai fait déposer une PPL encore il y a quelques...
Tu venais de dire que ça venait jamais des...
Non, mais je te dis, les grosses décisions politiques, par exemple, ce sont les cabinets ministériels, ouais, tu vois, Matignon et l'Élysée.
Vas-y.
C'est pas Lecornu et Macron qui prennent des décisions. Ce sont, enfin, évidemment, ils sont validés par Lecornu et Macron, mais ce sont les cabinets ministériels qui travaillent en souterrain, qui se renvoient la balle les uns aux autres. Ce sont des guerres intestines, si tu savais, entre... Ouais. Ministère. Et pour en revenir aux députés, une proposition de loi, moi j'en ai fait encore déposer une, là c'était quand ? C'était au mois de mars, qui a été votée à l'unanimité d'ailleurs au Parlement.
Ça s'appelle poser une Delpech.
Bravo.
Oh.
Pas mal. Alors là.
Et après, les PPL sont votées par tout l'hémicycle, mais le gouvernement peut très bien dire que la PPL est non recevable. Donc okay. Ce sont des rouages, c'est très long, c'est très fastidieux, mais c'est très intéressant.
Alors justement, restons un peu dessus, parce que je suis encore pas rassasié là. Quand tu parles de cabinet ministériel, on arrive dans cette fameuse image d'une France qui justement serait ingouvernable, parce que finalement le cornu, le Macron, c'est le mec du moment, c'est celui qui a le dernier paraphe, mais en même temps il maîtrise pas, dit-on parfois, justement cette espèce d'énorme ventre mou administratif qui est en dessous, que ce soit au niveau centralisé, mais aussi dans les régions. Enfin, c'est un énorme, comme on dit parfois, une usine à gaz, quoi, tu vois. Et donc, oui, il y a cette inertie, il y a cette impossibilité, même pas idéologique, mais simplement mécanique, de ne pas réussir à faire des lois.
Regarde combien de fois on a changé de Premier ministre, là, en 2 ans, depuis la dissolution.
Ouais.
Et regarde, la réforme des retraites, à chaque nouveau mandat, elle est réformée, à chaque nouveau mandat. Donc, tu n'avances pas. Donc, tu parles d'inertie, c'est tout à fait le bon terme.
Okay.
Tu vois, le PLFSS, c'est le projet de loi de la financement de la sécurité sociale.
Okay.
Il a lieu tous les ans au mois d'octobre.
Okay.
Tous les ans, le précédent est remis en question pour avoir des nouvelles lois qui seront encore remises en question.
Okay.
Il faudrait changer le mode de fonctionnement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir à vraiment réformer la
France ?
Il y en
a beaucoup qui pensent qu'il faudrait passer à la 6e République. Je pense que ça pourrait vachement aider.
Okay.
Y en a qui défendent la proportionnelle, je pense que ça pourrait aider.
Okay.
Ce qui est certain, c'est qu'il faudra un référendum. Mais en même temps, regarde les Français. Tu vois, tout à l'heure, on parlait par exemple du débat qui a eu lieu hier lors de la rentrée du MEDEF avec tous les candidats. Moi, je l'ai un peu écouté. Très honnêtement, je pense qu'il y a 1% des Français qui l'ont écouté et entendu. C'est-à-dire que les politiques sont devenues complètement inaudibles et je pense qu'on fonce dans un mur en klaxonnant. Moi, très honnêtement, je suis au cœur du truc, je ne vois pas de solution.
Ah ouais.
Tant que le système est celui-ci.
Bon, voilà. Au moins, ça le mérite.
Je ne sais pas si vous partagez ce que...
Non, mais si, mais complètement. Enfin, moi, je suis encore d'accord avec toi, mais en plus, je suis cynique. C'est-à-dire que je me dis que, de toute façon, on l'a bien cherché et puis qu'il n'y a qu'à se planter. Au moins, comme ça, on pourra peut-être reset.
On a les élus pour qui on a voté. Hein.
Voilà, bah, exactement. Ça fait quand même 50 ans, ce qui me concerne, qu'on fait bonnet blanc, blanc bonnet.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que quel que soit le candidat, c'est le même système.
Bien
donc,
sûr.
à la fin, on a ce qu'on mérite. Bref, donc, on a vu la fabrication, j'ai envie de dire, d'une décision politique. Là, j'ai une dernière question avant de faire une ultime chanson de Michel Delpech, une petite page de pub et enfin de passer aux remerciements. De toutes les Paulines, l'écrivaine, la comédienne, l'élu, la militante, laquelle te ressemble le plus ?
Ah, bah.
Alors ça peut être toutes. Hein,
mais toutes en fait, parce que je peux pas renier le moindre truc que j'ai fait. Après si la militante, parce que à travers mon travail, je milite pour des causes. À travers mon écriture, il y a du militantisme aussi. Pour l'Huffington Post, je peux te dire, j'ai fait des papiers qui étaient bien énervés. Ouais, la militante. Mais après, je suis pas une militante. Tu vois, par exemple, le féminisme, le féminisme, les alatoya du féminisme ne m'intéressent absolument pas.
D'accord.
Donc je suis plutôt une douce militante.
Puis rappelons-nous que dès le départ, tu voulais être riche et célèbre.
Oui, c'est vrai.
Oui, il faut pas oublier l'objectif.
C'est vrai. Bon. Mais non, c'est moi, je suis une douce militante, c'est ça. Ah. Mais c'est la militante qui m'incarne.
Qui motive le plus. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu parles de toi, on a bien senti, par exemple, que comédienne, t'avais un recul très très relatif, quoi.
J'en ai plus rien à faire. Et très honnêtement, aujourd'hui, les lumières, les strass, les paillettes, j'en ai plus rien à faire. Au contraire. À une époque, j'étais très heureuse quand on me reconnaissait parce que j'ai fait quelques émissions de télé, notamment le jeu mot de passe. Je sais pas si tu te souviens.
Très bien, je m'en rappelle très bien.
Et j'étais une des récurrentes. Ouais. Et j'étais très flattée quand on me reconnaissait. Aujourd'hui, je n'en ai plus rien à faire. C'est quelque chose où je me suis débarrassée de ça et j'en suis très heureuse.
Alors, on est bien d'accord que ton métier par essence est celui de la discrétion. Donc, on ne va absolument pas te demander de parler de clients. Mais par contre, tu as d'autres entreprises dans lesquelles tu t'investis, comme par exemple le PFC dont on peut parler. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois choses publiques.
Alors, pour le Paris FC, c'est différent. Ouais. Pour le Paris FC, c'est Pierre Ferracci qui est l'ancien président du Paris FC. Aujourd'hui, ça a été racheté par Antoine Arnault depuis un an maintenant, bientôt. Et en fait, pour le Paris FC, je fais pas de lobbying, je ne fais pas d'affaires publiques, je fais de la communication et je suis apporteuse d'affaires, c'est-à-dire que je leur apporte des partenaires et là-dessus je touche des commissions évidemment, mais je sais, il n'y a pas de lobbying ni d'affaires publiques.
J'entends bien, mais justement ça fait partie de tes activités.
Ouais, et ça c'est un truc que j'adore faire en fait, parce que mettre les gens en relation, après ils font du business et moi derrière je suis rémunérée, ça me coûte 3 déjeuners, quelques coups de téléphone, des moments sympas, tu vois, quand je suis dans les tribunes du Paris FC et que je vois tous les partenaires que j'ai apportés, je suis super heureuse.
En fait, si vous voulez savoir ce que fait Pauline Delpech, c'est assez simple. Vous allez sur Instagram et puis vous voyez ce qu'elle like. C'est-à-dire qu'en fait, elle a le like, j'ai envie de dire, orienté sur l'activité du moment. Cet hiver, on t'a vu liker, bien sûr, le PFC régulièrement, mais aussi quelques spectacles.
Oui.
Donc de personnes que certainement tu aides, à qui tu mets le pied à l'étrier et ou pour lesquelles tu communiques.
Mais même que j'ai produit.
Ouais, voilà.
J'ai produit un spectacle avec Laurent Grégoire, l'agent de tous les comédiens de Paris, et un très joli spectacle qui s'appelle Aime-moi. Mm-hmm. Et là, je vais en coproduire un autre d'ailleurs. Et même, je me lance dans la production de films.
Ah bah voilà, tu vois. Ah bon, on peut avoir une piste ou pas ?
Oui, c'est un film de Dorothée Tavernier.
Okay.
C'est une histoire d'amour.
Un rapport avec Bertrand ?
Non, pas du tout.
Okay.
Et qui est une femme absolument fabuleuse. Et le tournage est prévu pour avril 2027.
Très bien.
C'est une histoire d'amour.
Le titre, ce sera Hola Aubergiste, bien sûr.
Le titre, c'est Je viens te chercher.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, écoute, j'arrive. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes avec Pauline Delpech. Philippe Lefay nous a quittés tout à l'heure et on l'embrasse très fort d'être venu dire au revoir. Pardon. Et là, maintenant, j'ai besoin, peut-être si tu as encore une petite pause publicitaire et musicale, de me préparer à remercier les nombreux partenaires que nous avons eus pendant l'été.
Sans bruit dans mon rétro, 6h30, le temps est pourri, je mets la radio, j'entends plus le moteur, j'entends plus que mon cœur de taxi driver, elle part. J'ai pris le périph, changé de tarif, machinalement. J'ai la tête ailleurs, je suis un peu trop rêveur pour un taxi driver. Elle part loin.
soir, donne un pourboire et c'est fini. Elle regarde l'heure, appelle un porteur, je suis qu'un taxi driver et je pars.
Le café de la plage à Andernos. Pour déjeuner, dîner ou simplement partager un verre. Découvrez la nouvelle ambiance cosy, une cuisine aux saveurs du monde, les DJ tapas de 18h à 20h et les grands événements sportifs sur des écrans géants. Venez entendre battre le cœur du bassin. Le café de la plage, Andernos a trouvé son nouveau rendez-vous.
Du déjeuner jusqu'au dîner, adoptez la terrasse de l'hôtel Côté Sable. Délicieux tapas, assiettes fraîcheurs, bar à cocktails, ambiance musicale et vue imprenable sur le bassin. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
Bain de soleil et l'hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Et voilà les amis, nous sommes enfin, j'ai envie de dire, dans la dernière ligne droite de cette belle émission, bain de soleil du vendredi 28 août, mon brutal.
On voit même la ligne d'arrivée là.
Ça frissonne et on a eu quand même beaucoup de chance puisque nous avons fini cette belle saison radiophonique en intelligence et en beauté grâce à Pauline Delpech qui nous tient toujours compagnie.
Absolument, merci de m'avoir invité pour cette dernière.
C'est un grand plaisir, ça a été très difficile de vous trouver mais nous y sommes arrivés. Et quoi qu'il en soit, bah, évidemment la petite Loli est en train là aussi d'aller collecter quelques images pour les stories et les réels du jour. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais terminer cette émission par d'obligatoires remerciements qui sont la base de notre métier parce que bah, sans certains partenaires, il va de soi que nous ne pourrions pas faire quoi que ce soit, tout simplement. Alors déjà, bah, on va commencer par Pauline parce que sachez qu'elle s'intéresse à la destinée de Radio Erigo de Cap-Ferret depuis déjà plus d'un an, que là-bas à Paris, elle s'active pour nous trouver pourquoi pas des partenaires par-ci ou des clients par-là. Là, elle a même mis un petit peu la main à la poche, la bougresse. Et donc, de ce fait, nous sommes un petit peu ses obligés et nous sommes très heureux que ce soit le cas. Mon brutal, donc, bah, je vais te remercier aussi, évidemment, parce que bah, il faut bien que de temps en temps, des chauves à mauvais caractère, surnommés brutaux, sont quand même un peu indispensables dans la bonne marche des choses.
Moi, j'appuie sur les boutons, tu sais, et puis je dis deux, trois bêtises de temps en temps, c'est mon rôle.
Oui, mais enfin.
Moi, c'est tout ce que je sais faire.
Tu sais qu'il y a des dermatologues qui appuient aussi sur quelques boutons et qui gagnent des fortunes. Hein, donc, tout ça est très relatif, mon ami. Quoi qu'il en soit, évidemment, Loli et Lucie, on ne peut pas les oublier, nos petites princesses de l'été. Alors Lucie, par contre, n'a pu faire que juillet, parce qu'avec les incendies, bah, on ne va pas se mentir, c'était compliqué pour nous d'avoir des ressources suffisantes pour pouvoir bien assurer avec tout le monde. Mais voilà, Lucie a démarré la saison avec nous de façon ô combien motivée. Elle est très gentille, très motivée, charmante, ce qui ne gâche rien. Et donc Lucie, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Et bien entendu, on attend des temps meilleurs pour se retrouver et retravailler ensemble. Et puis bah, Loli, c'est pareil. Elle, pendant les périodes de feu. Elle était tous les jours en train de balancer de la story sur sa propre page. Loli, journaliste à l'époque, Loli Gonzalez maintenant. Et vous pouvez vous rendre compte qu'elle a une fibre de travail au fond d'elle-même qui est incroyable, d'autant plus qu'elle faisait une saison. Donc,
elle bossait en même temps, mais elle est bien partie pour être journaliste.
Je pense.
On sent qu'elle aime ça. Et
elle est motivée,
et que ça va
elle motivée, la bougresse.
C'est donc, de toi dont on parle, là.
Exactement, on est en train de faire les remerciements, mais Loli. Et donc, de ce fait, on était. Arrive, ouais, pour une fois qu'on dit du bien, faut pas le louper quand même.
C'est trop tard, t'as tout raté, mais faut que tu réécoutes le podcast.
Tu réécouteras le podcast. Mais elle est là et elle peut peut-être effectivement pouvoir réagir au fait qu'on te remercie d'avoir passé cette saison avec nous.
Merci beaucoup, je vous remercie aussi, c'était un plaisir de travailler avec vous deux.
Et t'as d'autant plus assuré que t'avais un deuxième boulot à côté.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Elle est fatiguée.
Ouais,
je vais me coucher, j'en veux plus.
La saison n'est pas finie, donc...
Donc voilà, ça c'est pour la team, dirais-je. Après, on a quelques sympathisants, Bruno qui passe par-ci, un ami qui passe par-là. Donc évidemment, on les remercie. Alors on va remercier bien évidemment tous nos invités. Alors on ne va pas faire la liste parce que ce serait trop long, mais sans contenu, il n'y a pas de contenant. Donc à partir de là, depuis le début du mois de juillet, vous avez vu se succéder à cette antenne des personnalités et ou des associatifs et ou des locaux ou des anonymes d'ailleurs, mais qui avaient tous quelque chose à raconter et qui, d'une certaine manière, ont enjolivé également toute cette période estival par leur présence et leur disponibilité, parce que c'est pas évident de venir passer deux heures comme ça quand on a peut-être quelques jours de vacances, on a envie de penser à autre chose, surtout si c'est votre métier à Paris par exemple, les micros, les casques, merdouille quoi. Donc merci à toutes et à tous nos invités qui se sont succédés pendant l'intégralité de cette saison. Et puis on va remercier également toutes les personnes qui, pendant les incendies, pendant la période compliquée, se sont dépensées effectivement toutes leurs possibilités pour aider, pour faire à manger aux pompiers, pour être bénévole par-ci, pour au contraire tenir la baraque par-là. Ceux qui ont obéi, bien sûr, évidemment, c'était important de laisser la place aux gens qui s'occupaient de la sécurité et qui devaient avoir place nette pour pouvoir défendre la presqu'île, entre autres, mais aussi les environs. Donc voilà, vraiment, il y a des remerciements partout à faire cet été. Et puis, tout seigneur, tout honneur, il faut quand même remercier l'Hôtel des Pins.
Ah oui, là, qui nous ont offert la terrasse, accueilli,
c'est le mot, quoi. Il y avait des sourires, des gens absolument adorables.
Bah, l'équipe est super.
Ouais, vraiment. On va se faire un petit trombinoscope, d'ailleurs, pour terminer. En story, ce soir, vous verrez les têtes de tout le monde qui salue. C'est toi qui vas t'en charger, Loli.
Bien sûr, je ferai ça.
Je vous recommande la blanquette de sèche safranée.
Alors ça, je ne sais pas, parce qu'on va dîner ce soir ici. Et comme nous allons dîner ce soir, et que moi je suis un viandard, je ne prends pas la sèche.
Tu mangeras je la prends tous les soirs.
Tu mangeras l'entrecôte.
C'est pour ça que tu as le nez jaune.
C'est pour ça.
Quoi qu'il en soit, safrané. Alors, donc l'Hôtel des Pins est merveilleux parce que le cadre, l'accueil, la gentillesse. Et puis nous, ça nous change. Ça fait 3 ans de Verigood Mobile. C'est sympa. On a toujours utilisé un petit peu notre camionnette rouge symbolique, mais on était la plupart du temps collés ici. On était bien contents parce que, avec les chaleurs qu'il faisait, je peux vous dire qu'une petite terrasse avec une treille sur la tête, ça fait du bien.
Je te cache pas que j'aime bien l'arrière du camion, mais je préfère la terrasse de l'Hôtel des Pins.
Ouais. Surtout qu'effectivement, toi, t'as pas la meilleure place du camion. On est bien d'accord.
Le parasol, c'est compliqué. Hein.
Ouais, elle va dans le coffre.
Ouais, exactement. Donc ça, c'était pas très très simple. Alors voilà, ça c'est pour l'Hôtel des Pins. Mais pas que, parce qu'il y avait aussi des partenaires donc, qui, vous les avez entendus dans les publicités, nous accompagnent pour certains depuis longtemps, puis d'autres qui étaient nouveaux aussi. Donc ça fait plaisir de voir que certains nous font confiance et que d'autres nous l'accordent pour une première fois. Donc évidemment, on parle de nos vieux amis d'Hortense et de la cabane d'Hortense. On parle de l'hôtel de la plage, là-bas, à l'herbe, évidemment, Stécie et Pierre et Nicolas, pardon. Et côté sable, alors là, bon, c'est là aussi un vieux partenariat. Le café de la vigne, ça c'est nouveau, ils sont absolument adorables.
On a été chez eux.
On a été faire une émission là-bas avec Françoise Laborde et vraiment je vous recommande ce café de la vigne. D'abord le site est original et puis ils sont vraiment, je le répète, adorables. Neneuil, c'est une nouvelle dégustation là-bas, la République des Jaquets, comme le dit la publicité. C'est notre ami Sébastien Degrave, une figure locale que tout le monde connaît, et évidemment il a su faire les choses très très bien, comme on peut s'en douter. La météo était sponsorisée par Jean Bonifazi. Et puis Glisse en herbe, donc on le salue. On salue aussi Michel, Laetitia, notre copine, qui est au canon là maintenant. Alors elle a monté un bouclard incroyable. Elle fait des super glaces, produits naturels artisanales. Elle fait des cocktails de fruits hyper sympas. Elle fait un peu bar à vin le soir dans un cadre adorable. Et un petit peu plus loin, elle fait une rôtisserie si jamais. Donc vraiment, c'est un commerce très complet et qui a très 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 bien marché.
Alors bientôt, elle va fabriquer des voitures, des bateaux.
Elle a bossé. Surtout que, parce que tu dis ça, parce qu'elle a aussi une boutique de mode à quelques encablures, c'est vrai. Elle est en train d'investir le canon, la Laetitia. Sispay, nos amis, système de paiement, ça fait 2 ans qu'ils sont avec nous. Alors là, c'est un peu plus aride, on comprend un peu moins. Mais sachez que si vous êtes des concierges, des hôteliers ou quoi que ce soit, que vous voulez vous simplifier la vie et votre comptabilité, bah, avec Sispay, ça se passe très très bien. La maison de la presse, hein, on ne peut pas les oublier.
Évidemment.
Alors eux, c'est un partenariat vieux comme mes robes.
Qui m'ont abreuvé de café régulièrement.
Exactement. Jo Bassin, qui est notre publicité la plus ridicule, mais volontairement, bien entendu, de l'été, elle est faite pour attirer l'oreille. Je pense qu'elle a rempli sa mission parfaitement, je veux dire.
Bravo, Freud.
Oui, c'est vraiment, on a souffert avec vous. Et puis, la dépêche du Bassin, donc je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit ? Non, je ne l'ai pas dit.
Tu ne l'as pas dit. Ils, voilà, ils ont été là tous les jours au rendez-vous. Hein.
Exactement. Donc là, maintenant, je le refais exhaustivement pour être sûr de ne pas me tromper. Hôtel des Pins, Hortense, Cabane d'Hortense, Hôtel de la Plage, Côté Sable, Café de la Ville, Neneuil, Café de la Plage en Ernos. Je ne l'avais pas dit, celui-là. Café de la Plage en
Ernos. Non, je ne l'avais pas dit.
Ce sont nos amis. Ce sont Christian et Thi qui ont repris une affaire. Ils sont très connus ici. Ils avaient tenu différents restaurants. Ils avaient été ensuite de l'autre côté, là-bas, à côté du Pilar, pour s'installer là aussi. Et puis Covid qui était arrivé. C'est eux, ils avaient défrayé la chronique parce que c'était eux qui étaient en procès avec AXA, qui ne voulaient pas payer. Tu sais, sur les pertes d'exploitation.
Je me souviens très bien.
Exactement. Et donc, je me doutais que tu connaîtrais ce genre de dossier. Et ben voilà, ils avaient été en actualité de ce sujet-là. Et entre-temps, ben, ils avaient dit retraite, on arrête, c'est bon, on a donné. Paf, non. Le virus les a repris. Café de la Plage, là-bas, à Ondernos. Donc, Glisse en Herbe, Jo Bassin. Sispay, la dépêche du Bassin, Michel Mabel et Maison de la Presse. Là, je crois que j'étais très complet.
Oui, tu as été quasiment complet. Il manque juste une personne. C'est notre vieil oncle libidineux qui a beaucoup de défauts, mais. Il y en a un qui...
Et non, attends, il manque Freud.
Ah ben Freud, je viens d'en parler, t'as pas rebondi. J'ai
mais
dit...
pas assez, il faut en parler beaucoup plus, parce que toutes les pubs, tous les montages, toutes les productions, tout ce qui sort à l'antenne de propre, c'est Freud.
C'est lui, voilà. C'est lui.
L'ami Freud là-bas à Mérignac, alors lui c'est un gros timide, hein. Bon, avant de le faire venir c'est compliqué. Ouais. Mais quand vous allez revenir là, les deux là, de Paris, et qu'on avait prévu de se faire une bouffe, là Freud sera là.
Okay. Et tu sais quoi, l'année prochaine on l'appellera au téléphone, on va le piéger à un moment, faut qu'il parle.
Ah, c'est pas con.
Ah ouais, on l'appelle l'air de rien, et puis au bout de 3 minutes, on lui dit bah, finalement, t'es à l'antenne. C'est peut-être un peu dangereux comme méthode, mais.
C'est pas con, tiens, je vais le faire tout de suite.
Donc voilà, donc j'en profitais pour remercier. C'est ma vanne, notre vieil oncle libidineux, ouais. Qui est donc tonton, qui est celui qui bosse le plus là-dedans, parce qu'il est à la fois dans la cale du bateau en train de resserrer les bougies du moteur, il règle les voiles, et puis il prend la barre aussi de temps en temps, enfin même pas de temps en temps, tout le temps.
C'est pour ça qu'il est libidineux.
Même par gros temps. Voilà. Donc c'est quand même lui qui bosse le plus et c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et voilà, donc comme il est quand même assez modeste, il ne le fera pas lui-même, mais c'est nous qui le faisons. Bravo. Voilà.
Bravo tonton.
Allez, merci à tous et à tous. En tout cas, à la fin, on a remercié presque tout le monde parce que l'essentiel, c'est quand même l'auditeur. C'est-à-dire que sans vous, ce qu'on fait sert strictement à rien. Et donc, les 12 personnes qui nous ont écoutés depuis le début du mois de juillet sont vraiment sympathiques. On comprend votre sens du sacrifice. On vous remercie. On ira à Lourdes à genoux rien que pour vous porter un cierge. Allez, merci à toutes et à tous. C'était vraiment une saison géniale. Même si elle a été très difficile, bien entendu, on ne l'oublie pas. Mais allez, il faut faire fi des parenthèses maudites et puis se rappeler que du meilleur. Et le meilleur, c'était tout ce qu'on a vécu avec vous. On vous embrasse très fort.
Bain de soleil, c'est fait pour aujourd'hui. Mais l'Hôtel des Pins vous attend tous les soirs pour un dîner sous la verrière centenaire à l'ombre des rosiers du bel Albicia.